L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, on est dans le quatrième enseignement donc sur cette série sur les finances. Et comme vous avez dû le voir, on va continuer pendant trois réunions sur les finances. Et je ferai un petit résumé en écrit que j'essaierai de vous faire envoyer si vous êtes inscrit sur les nouvelles de l'Église. Sinon, vous me dites à la fin et je pourrai prendre votre email. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? On est parti à partir d'un verset qui se trouve dans Agé au chapitre 2 et au verset 8, qui nous dit « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Et le matin de la première, du premier enseignement sur cette série, je me suis réveillé avec une parole. En fait, j'étais en train de dire à quelqu'un « On doit d'abord changer l'intérieur pour changer l'extérieur. » Et je crois que c'est vraiment une parole de Dieu pour plusieurs personnes qui souvent pensent que ce sont les choses à l'extérieur qui sont le problème, que ce sont les circonstances qui sont le problème. Mais en fait, c'est souvent ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes et c'est de nos propres mentalités que nous produisons des fruits bons ou mauvais. Et si nous avons une mentalité qui est vraiment en accord avec la parole de Dieu, alors automatiquement nos circonstances vont être transformées. Donc la parole de Dieu est une parole d'espérance. Dieu dit que cette dernière maison sera plus grande, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc il est évident que si vous mettez en pratique les enseignements qu'on est en train de voir en ce moment, depuis plusieurs semaines, il est évident qu'il doit et qu'il y aura une transformation dans nos finances. C'est clair, la parole de Dieu est très claire par rapport à ça. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc si on met en pratique sa parole, une chose est certaine, Dieu est derrière et c'est une bonne nouvelle. Et on va parler aujourd'hui entre autres de cette bonne nouvelle. On a vu qu'il fallait d'abord reconnaître nos erreurs par rapport aux finances. On fait tous parfois des erreurs. Pendant qu'on entend plusieurs enseignements, c'est là qu'on peut aussi réaliser certains problèmes, certaines carences qu'on peut avoir. Et là, par rapport à ça, il faut vraiment avoir un cœur ouvert. Avoir un cœur ouvert pour changer, pour être transformé. Sinon, on va simplement entendre et ne pas recevoir la parole de Dieu et l'extérieur ne changera pas. On a vu la volonté de Dieu concernant les finances. Dieu n'est pas le Dieu du manque. La volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on soit prospère. On avait vu, entre autres, au travers de 2 Corinthiens 9, on voit que Dieu utilise des termes assez extravagants, assez forts, pour nous montrer combien il veut nous faire prospérer. Dieu est un bon Père céleste, il veut prendre soin de nous. Et la Bible nous dit que Jésus a parlé, par exemple, de ces oiseaux que le Père nourrit. Et ils n'ont pas besoin de s'inquiéter, le Père les nourrit. Donc à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, Dieu va aussi nous nourrir. On a vu dans les fondations aussi que l'argent n'est pas quelque chose de sale. On a même vu que Dieu aime l'or et l'argent. On voit par rapport à la Nouvelle Jérusalem, on voit ça dans l'Ancien Testament. On voit par exemple que lorsqu'il a fallu construire le temple, dans 1 Chronique au chapitre 22, David a accumulé environ 45 000 tonnes d'or pour le temple. Donc, 4500 tonnes d'or pour le temple. Donc, il y a de l'or. Et Dieu n'a pas de problème avec l'or. Par contre, comme je l'avais dit et je l'ai répété, je le répéterai, le problème toujours, c'est le cœur de celui qui possède l'or et l'argent. Si on a un bon cœur, Dieu nous fera prospérer. Si on a un cœur pour son royaume, si on a un cœur pour faire avancer le royaume de Dieu, c'est clair. Et si on utilise les lois du royaume, les lois de la parole de Dieu, Dieu mettra de l'argent entre nos mains pour être une source de bénédiction. On a vu que l'argent est limité, bien sûr. Par contre, derrière un bon cœur, avec un bon cœur, on peut vraiment faire des choses merveilleuses et aider les gens à être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. On avait parlé de la façon dont on voyait l'argent. On a dit que Dieu est le propriétaire de l'argent et nous sommes des intendants, des gestionnaires des différentes grâces de Dieu. Et parmi ces grâces, il y a aussi une bénédiction, ça fait partie de notre héritage, ce sont les finances. Donc au travers de nos finances, on peut vraiment être une bénédiction et il faut qu'on puisse voir l'argent qu'on a dans nos mains comme vraiment quelque chose qui appartient à Dieu et on doit se poser régulièrement la question « Comment je peux bien gérer les finances que Dieu me donne ? Comment je peux bien investir ? Comment je peux bien les dépenser ? Comment je peux bien les économiser ? Comment je peux bien les utiliser ?» C'est des questions qu'on doit se poser. On a vu que la valeur de l'argent, on a tous une valeur de l'argent, on donne une valeur à l'argent différente. Selon notre bagage, selon peut-être ce qu'on a sur notre compte bancaire, 10 000 dollars pour quelqu'un de multimillionnaire, c'est à peu près peut-être l'équivalent de 10 dollars pour quelqu'un qui gagnerait le minimum de revenus. Donc l'argent n'a pas la même valeur pour tous et l'argent n'a pas la même valeur, c'est sûr, pour Dieu. Dieu ne vit pas dans le manque. Au niveau des répulsifs de la prospérité, ça c'était notre deuxième partie, donc la première c'était les fondations. On a vu qu'il y avait différentes choses qui éloignaient la prospérité de la vie des gens. Et la première, c'était les inquiétudes. Hein. Jésus disait, ne vous inquiétez pas en 10 ans. Donc on a parlé de la confession, on va y revenir un peu aujourd'hui. On avait donné l'exemple de Job. On a vu Pierre qui marchait sur les eaux. Au bout d'un moment, il a commencé à regarder les circonstances. Pourtant, rien n'avait changé. Le vent soufflait aussi fort. Mais à partir du moment où il a défixé ses yeux de Jésus et qu'il a commencé à fixer ses yeux ailleurs, alors il a commencé à couler. Et c'est ce qui arrive parfois quand il y a des pressions financières. On croit la parole de Dieu, on commence à prier, on commence à parler la parole, mais les pressions deviennent de plus en plus fortes et c'est là qu'on voit vraiment si nous sommes des personnes de foi. Ça me fait rire dernièrement et je pense que je vais écrire une pensée à ce sujet parce que je l'entends de plus en plus. L'expression je me mets dans la foi. Voilà, il y a des gens qui disent ah non, ça par la foi. Vous savez, l'expression par la foi, dans le milieu chrétien, c'est devenu en fait. J'espère que peut-être Dieu fera peut-être un jour quelque chose. Alors que par la foi, normalement, c'est la Bible dit que c'est par la foi que les anciens ont obtenu les choses qui leur avaient été promises. Par la foi, pour beaucoup de gens, c'est devenu j'essaie de croire la parole et on verra ce que Dieu va faire. Alors que c'est pas du tout ça. Par la foi, quand tu as la foi, tu sais que cette chose-là, elle t'appartient. Tu dis pas peut-être Dieu va le faire demain, etc. Mais elle t'appartient. Si vous avez chaud, vous pouvez ouvrir. Je vois que plusieurs personnes qui ont chaud et c'est vrai qu'il fait un peu chaud ce soir. Je pense que oui. On a vu aussi que la peur, c'était un sentiment et que la peur pouvait être gérée. On n'est pas censé avoir peur. Dieu a établi l'homme pour gouverner, pour régner et non pas pour avoir peur. Et la peur, c'est pas un sentiment que Dieu veut dans la vie des croyants. Et la peur, c'est vraiment un sentiment qu'on peut gérer dans nos vies et qu'on peut écarter. On a vu aussi que le doute n'est pas le langage de Dieu et que Dieu ne comprend pas les prières faites avec inquiétude. Parce que ça va complètement contrairement à cette loi spirituelle qui nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et on avait vu plusieurs attitudes par rapport au problème d'argent. On en avait vu trois. On a vu les gens bon, qui avaient peur et en fait qui extrapolaient. C'est-à-dire, ils voient un problème et tout de suite, ils se voient déjà dans la crise, ils se voient déjà sans maison, sans travail, sans rien, sans femme, sans enfant et tout ça, en prison. Ça, c'est la première attitude. Il y a la deuxième attitude, c'est ceux qui s'inquiètent et qui s'agitent. Et on avait vu avec Marthe, hein, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Et il y a des gens comme ça, ils s'agitent facilement pour peu de choses. Alors que la bonne attitude, celle de la parole de Dieu, c'est de ne pas s'inquiéter, mais en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications. On a vu que c'était une prière inspirée, avec des actions de grâce, donc une vie de louange. En fait, ce qu'on veut, quand on a des pressions financières, c'est créer une atmosphère de foi où Dieu et les anges peuvent agir en notre faveur. Si on crée une atmosphère d'incrédulité, de peur, de doute, alors c'est clair qu'avec Pierre, on va s'enfoncer. Et peut-être que Jésus sera là pour nous prendre la main, ou peut-être qu'on va rester un peu plus longtemps parce qu'on croit même pas qu'il est capable de nous relever. On avait parlé de l'amour de l'argent. On a vu que c'est pas l'argent le problème. Bien sûr, c'est l'amour de l'argent qui est à la racine de tous les maux. L'argent n'est pas un problème. C'est ce qu'on en fait avec. On a parlé de l'orgueil. Bien sûr, l'orgueil précède la chute. Et de l'égoïsme. L'égoïsme était un point important. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est les deux premières choses qui sont dites dans ce passage de 2 Timothée au chapitre 3. Donc, l'égoïsme. Jacques disait, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Et les gens égoïstes vont créer et vont amener et vont faire certains actes dans leur famille, autour d'eux, qui vont amener des conflits et des problèmes. Et Jacques est en train de dire, mais finalement, pourquoi vous avez des querelles, pourquoi vous avez des conflits à l'extérieur? C'est parce qu'à l'intérieur, vous êtes plein d'égoïsme. Et il y a des gens qui, effectivement, font des choix et des achats égoïstes qui mettent en péril la famille, qui mettent en péril leur couple, qui mettent en péril la gestion financière de leur foyer. Et c'est sûr pas bien, et c'est vraiment dangereux. Et la Bible dit que l'amour ne fait rien d'inconvenant. Il y a des gens parfois qui manquent un peu d'intelligence, ils sont tellement égoïstes qu'ils ne voient pas les choses très clairement. Et donc, à cause de leur désir égoïste, ils amènent leur famille dans des problèmes. Les convoitises, bon, ça marche un peu ensemble. Les convoitises, on a vu que c'était vraiment l'opposé de la sagesse. Et c'est un peu parfois par convoitise, les gens font des stupidités financières. Ils veulent gagner tout et tout de suite et rapidement. Et les proverbes nous parlent, par exemple, hein, que celui qui gagne beaucoup rapidement, il va aussi perdre rapidement. Et les gens qui ne sont pas utilisés à avoir beaucoup d'argent dans les mains, ils pensent que c'est facile de gérer de l'argent et pas forcément. Et on a vu des gens gagner beaucoup d'argent d'un coup et devenir les gens les plus pauvres. D'ailleurs, j'ai un ami qui est footballeur professionnel et donc il était entouré avec des gens qui gagnaient des centaines de milliers de dollars tous les mois ou tous les 2-3 mois. Et en fait, ils avaient plein de problèmes d'argent, ces gens-là, parce qu'en fait, ils vivaient tellement dans des niveaux financiers élevés et avec tecllement de convoitises, Ecclésiaste dit que ceux qui aiment l'argent, ils sont jamais rassasiés. Et ça, c'est une réalité. Donc, les convoitises, ça va amener aussi des problèmes. La Bible dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Ça, c'est dans Proverbes au chapitre 17 et au verset 1. Donc, la convoitise amène des choses. Par exemple, les gens vont dépenser énormément d'argent dans les jeux d'argent. Les gens vont vivre au-delà de leurs moyens. Les gens vont faire des crédits parce qu'il y a la télévision XXY qui vient de sortir et elle est mieux que la XXW. Donc, il faut absolument l'acheter. Sinon, on va pas être bien. Les gens s'achètent toutes sortes de choses. Ça peut être des voitures de luxe. Ça peut être une maison alors qu'ils n'ont pas besoin d'une maison avec 50 pièces. Ils vont s'en acheter une avec 50 pièces. Ça peut être beaucoup de choses, et à cause des convoitises, certaines personnes vont repousser les échéances de leurs factures, par exemple. Les gens vont repousser le paiement des impôts, le paiement de ceci ou de cela, et finalement, ils vont arriver en espagnol, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, en fait, ils s'en sortent pas, ils sont pris dans un engrenage, en fait, qui fait que c'est quasiment impossible pour eux de sortir s'ils ne changent pas de pensée. Il y a des gens qui sortiront jamais de leur problème d'argent parce qu'ils ne changeront jamais de pensée, de mentalité. Même dans la foi, en Christ, dans l'Église, d'une manière générale, il y a des gens qui ne prospéreront jamais parce qu'ils ne feront jamais prospérer leur pensée. Et la Bible est claire, Jean le disait, « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Donc c'est évident, si notre âme est renouvelée par la parole de Dieu, automatiquement ça se verra à l'extérieur. On avait parlé des dettes, et rappelez-vous que le mot « intérêt », ça veut dire « se faire mordre ». Donc, faites attention aux intérêts. Les taux d'intérêt sont assez intéressants ici, au Canada, en tout cas en ce moment, par rapport à bien d'autres pays. Mais il faut quand même faire attention, parce que un intérêt plus un intérêt plus un intérêt, ça fait beaucoup d'argent. Donc, il faut faire attention. La Bible dit « ne vous devez rien les uns aux autres, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Ça, c'est dans Romains 13, 8. Donc, les dettes, il faut savoir les gérer. Si on a des dettes, il faut savoir les écouler. Et Dieu peut vraiment nous donner la sagesse. Il faut rechercher la sagesse et prier par rapport à ça. La Bible nous dit de nous contenter de ce qu'on a présentement. Et on avait vu que c'était une mentalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus d'argent, parce qu'on n'irait pas au travail sinon. Mais c'est une mentalité d'être satisfait avec ce qu'on a. Et par rapport à la convoitise, par rapport aussi à l'égoïsme, si on est heureux, en fait, en Christ et à cause de Christ, on va guérir de l'égoïsme et on va guérir de beaucoup de choses par rapport à l'argent. Si notre joie se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ, si notre joie se trouve dans la foi en Dieu, si notre joie se trouve dans une intimité avec Dieu, si ce qui fait notre joie, c'est vraiment la présence de Dieu, il y a bien des choses dans notre vie qui vont être purgées. Il y a des choses qu'on ne retrouvera pas simplement parce que notre joie se trouve en Christ. Et ça, c'est important. On avait parlé des budgets. J'ai dit que zéro budget égale zéro progrès. Les dettes ne s'envolent pas du jour au lendemain et il faut savoir faire des budgets. Ça, c'est important. On n'y pense pas forcément parce qu'on n'a pas forcément été éduqué à l'école ou par nos parents à faire des budgets. Mais à un moment, que ce soit à 20 ans, à 30 ans ou à 60 ans, il faut savoir faire des budgets. C'est important et ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut connaître nos entrées et nos sorties, qu'elles soient annuelles, mensuelles ou ponctuelles. Par exemple, il y a des impôts, ça peut être ponctuel, ça peut être aussi une entrée pour certaines personnes, un retour d'impôt. Il faut savoir être intelligent et faire des budgets. Dans Genèse 41, 26, on voit l'exemple de Joseph. Je l'avais juste cité la dernière fois. Vous vous souvenez que Joseph, il a vu que Dieu, en fait, qu'il allait se passer 7 ans de famine, pardon, 7 ans d'abondance, puis 7 ans de famine. Et là, il n'a pas fait n'importe quoi, mais il a fait un budget. Il a vu 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Alors là, il a réfléchi, il a fait des réserves pour que les 7 ans de famine n'amènent pas des problèmes. Mais s'il avait fait comme la plupart des gens aujourd'hui, pendant les 7 ans d'abondance, il aurait dépensé, gloire à Dieu, le Seigneur est avec moi, etc. Et dans la famine, ben, il ne resterait plus rien. Et là, il aurait dit, mais Seigneur, pourquoi? Et Dieu lui aurait dit, tu as manqué de sagesse. Donc la sagesse, c'est important. On marche avec Dieu, on marche sur la terre, on marche par la foi, oui, gloire à Dieu, mais il faut marcher avec sagesse. La foi n'est pas contre la sagesse. En fait, les gens qui ont manifesté le plus de foi, c'est souvent des gens vraiment qui marchent dans la sagesse de Dieu. Et parmi les gens qui ont le plus prospéré, c'était des gens, oui, qui peut-être avaient une grande foi, mais aussi avec beaucoup de sagesse. Parce que vous pouvez avoir une grande foi, mais tout perdre du jour au lendemain. Et après, il va falloir reconstruire la foi, etc., avec l'échec que vous avez vécu. Ça va peut-être mettre du temps. Donc, des budgets, j'ai vu que je vous ai dit qu'il y avait des applications qui existaient. Il y a des sites web qui existent. J'avais cité entre autres mint.com. Ça, c'est un site qui existe et c'est gratuit. Ça met en relation votre compte bancaire avec ce logiciel. Et bon, c'est sécurisé, en tout cas pour celui-là. Et ça nous permet très rapidement de faire des budgets, de savoir où on dépense le plus. Des fois, on peut être surpris. Quand on calcule combien on dépense dans le restaurant ou dans telle et telle chose, on peut arriver à la fin du mois et se dire « Mais waouh, je dépense 250 $ dans le restaurant ou 250 $ là-dedans. » Et on peut peut-être économiser quelque part si on en a besoin en tout cas. Au niveau des budgets, il y a aussi des choses qui existent. Comme il y a des banques en fait qui font des choses sur les budgets. J'ai pris par exemple un budget qui existe d'une banque ici au Québec. Tout simplement, ils mettent les revenus mensuels. Donc là, il y a le revenu courant, bon, ça peut être le salaire, bien sûr. Si quelqu'un est travailleur autonome, il peut mettre aussi son revenu. Et rappelez-vous, j'avais dit, on ne va pas prendre sur les 12 mois le mois où on reçoit le plus d'argent pour faire une moyenne, mais le mois où on reçoit le moins d'argent pour faire une moyenne. Ça, c'est important. Il y a aussi ceux qui travaillent sur des commissions, par exemple, qui ont des bonus, qui ont des pourboires, ou alors qui reçoivent des prestations gouvernementales. Il y a des gens qui reçoivent des bourses aussi. Il y a le remboursement d'impôts que certaines personnes reçoivent en début d'année. Donc là, c'est quelque chose, ça peut, il y a des gens, je sais, j'ai entendu plusieurs fois des gens me dire, j'ai reçu 1 000 $, j'ai reçu 2 000 $, j'ai reçu 2 500 $. Si vous les dépensez comme ça tout de suite, ça peut créer des problèmes. Par contre, si vous les échelonnez, ça peut être vraiment une bénédiction. Remboursement du taxe de vente, des revenus de location ou d'autres revenus. Donc vous mettez d'une part vos revenus. Après, vous pouvez calculer des épargnes parce que si vous voulez partir en vacances, c'est possible. Par contre, si vous ne faites pas de budget, bah, ça deviendra peut-être impossible. Mais si vous mettez un peu d'argent, je me souviens, ma belle-sœur, elle a une tirelire chez elle. Et c'était la tirelire pour partir au Canada. Donc, ils mettaient de l'argent à chaque fois qu'elle avait de la petite monnaie, elle mettait ça là-dedans. Donc ça peut être une chose. Épargne vacances, épargne voyage, épargne voiture, retraite ou je ne sais quoi. Après, dans les dépenses, bon, il y a les dépenses de l'habitation, là, vous les connaissez. Les assurances, le transport... les télécommunications, l'alimentation, la santé, les loisirs et l'éducation, ça fait partie du budget. Les abonnements, les remboursements d'emprunts pour ceux qui en ont, que ce soit emprunt à la banque, mais aussi emprunt à des amis ou à des frères et sœurs. Comme je vous ai donné deux exemples de personnes qui étaient chrétiennes et en fait qui n'ont jamais rien remboursé, parce que les gens se disent « Oh, c'est pas grave », mais c'est grave, c'est important. Et dans les autres dépenses, il y a les vêtements, les frais de garde, les dépenses liées aux enfants, les soins personnels, les dons, bien sûr, les cadeaux. Eux, ils mettent le tabac et les boissons alcoolisées, mais gloire à Dieu, on en est délivré. En tout cas, je pense. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir... parce qu'on parle, on fait une série sur les finances, mais si on ne parle pas de budget un petit peu, ce serait pas très logique qu'il faut en parler. Donc voilà, j'avais fait quelques petites remarques. En gros, c'est dire aussi que on devrait avoir entre 2 à 3 mois d'épargne au niveau de nos sorties mensuelles. Par exemple, si votre sortie mensuelle, c'est 2 000 $, ben vous devriez avoir entre 4 à 6 000 $ constamment sur un compte bancaire comme épargne pour gérer les imprévus. Un imprévu qui est prévu, il trouve une solution rapide. Ça ne devient pas un géant. Par contre, un imprévu qui est non prévu, là, ça crée des problèmes. Mais il y a des imprévus, quand c'est prévu, je vous avais donné l'exemple de Dieu. Pour Dieu, il a tout prévu, il sait tout à l'avance, il n'y a pas de problème. Donc, il est surpris par rien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne s'inquiète de rien. Jésus dormait dans la barque sans problème. Tous les autres étaient affolés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas prévu le truc. Jésus avait prévu, il n'y avait pas de problème, il a géré la situation. Et on peut baisser nos charges si on a des dettes, parce que là, on parle des dettes. Je vous avais expliqué, par exemple, il y a des gens qui vont se serrer la ceinture, comme on dit, ils vont commencer à manger n'importe comment pour gagner peut-être 50 $ par mois, alors qu'ils pourraient les gagner beaucoup plus facilement en enlevant un abonnement peut-être à la télévision ou un abonnement à ceci, à cela. Et ce serait parfois un moyen facile de pouvoir économiser un peu. Il y a aussi moyen d'acheter aussi intelligemment, il y a moyen de négocier, que ce soit sur des taux, que ce soit sur des achats ponctuels, même sur des abonnements régulièrement. Vous pouvez baisser vos abonnements de téléphone, vous pouvez baisser vos abonnements Internet, il y a toutes sortes de choses qui se baissent. Même les loyers, ça se baisse d'ailleurs. Hein. Là, j'ai trouvé un loyer pour quelqu'un qui vient d'arriver de France. Et j'ai réussi à baisser au départ de 100 $ et après j'ai réussi à baisser de 200 $. Donc 200 $ par mois, c'est une bénédiction. Ça permet de pouvoir aider les gens. Moi-même, quand on arrive au Québec, j'ai réussi à avoir une maison qui était louée à peu près deux fois plus que ce qu'on a loué. Et c'était pas une chrétienne qui nous la louait du tout. C'était une dame qui aimait bien l'argent. Mais il y a moyen de négocier parfois. Et c'est comme ça qu'on peut mettre de l'argent de côté et aussi devenir une source de bénédiction. C'est en négociant parfois, c'est important. Dernièrement, il y a quelqu'un qui voulait s'acheter une voiture. Il n'avait jamais négocié de sa vie, comme je vous ai dit. Et je lui ai dit, une voiture, c'est au moins 1 000 $, tu négocies. Il est reparti avec les 1 000 $ en moins et il les aurait plus, les 1 000 $. Donc aujourd'hui, c'est 1 000 $ qui sont plus là. Aujourd'hui, il les a et ça, c'est bien. Donc il y a des choses comme ça, c'est important. J'avais parlé aussi de devenir et de rester équilibré. Il y a des gens, comme on a dit, qui se serrent la ceinture. Et c'est comme un peu dans les régimes, hein. Je vous avais donné l'exemple. Il y a des gens qui mangent pendant 30 jours des légumes et après, ils suivent 30 jours de McDo. Donc ça crée des déséquilibres. J'ai connu bien des femmes, pour ne pas les citer, qui ont fait tellement de régimes, mais c'est ici et c'est là, parce que certaines, après, ou alors quand vous jeûnez, après, vous avez envie de manger. Il y a des gens comme ça, ils jeûnent. Enfin, ils jeûnent, c'est pas vraiment des... Bref, c'est pas vraiment des jeûnes bibliques, mais bon. Ils attendent à 18 h, ok, à 18 h ils sont à la montre, et là ils ont déjà tout un repas de prévu. Et là ils sont prêts à manger comme des fous. J'avais dit aussi qu'il y a des dépenses superflues et inutiles qu'on peut aussi se passer, et ça peut aussi permettre de baisser les dettes ou de rembourser les dettes plus facilement. On a donné l'exemple de la Bible qui dit de celui qui veut construire un tour, bien sûr, il va s'asseoir, et si on veut rembourser des dettes, c'est important de s'asseoir et de regarder un peu notre budget. J'avais dit aussi que faire les soldes ne veut pas dire faire des affaires. On est dans une société de consommation. J'avais donné l'exemple d'un magasin, entre autres. Et c'est ça. C'est pas parce que vous faites des soldes et que c'est écrit moins 50% que vous faites des affaires. Parce qu'en fait, c'est peut-être quelque chose que vous n'auriez pas acheté. Donc, c'est plutôt le magasin qui fait des affaires. Et c'est pour ça qu'il prospère. Donc, ça, c'est un peu pour les dettes, pour faire un retour rapide. On avait parlé de la malhonnêteté. Et bien sûr, quelqu'un de malhonnête, il ne pourra pas prospérer, en tout cas selon Dieu. On voit dans les journaux ici, je sais pas, les gens aiment tellement ça que c'est quasiment tout le temps à la une. Des gens à Montréal qui ont trafiqué, etc., avec de l'argent. Et on voit leur tête quasiment toutes les semaines sur le journal de Montréal, entre autres. De gens qui ont trafiqué, des gens qui ont été malhonnêtes. Et un jour ou l'autre, celui qui creuse une fosse, il tombe. Donc même s'il y a des gens qui réussissent à ne jamais se faire avoir, ils prospèrent pas d'une manière divine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la protection divine, il y a tout un tas de choses qu'ils n'ont pas, toutes sortes de bénéfices. Nous, ce qu'on veut, c'est prospérer d'une façon divine. On veut pas de l'argent. On a vu que la prospérité, ça n'est pas de l'argent. Je vous ai donné l'exemple quand j'étais en France. À un moment, on avait vraiment des besoins et quelqu'un nous a fait visiter sa maison et à la fin, on a dit combien c'était. Il nous a dit, c'est gratuit. On est resté à peu près 3 ans dans cette maison, donc avec pas de loyer. Donc vous imaginez que forcément, on a prospéré d'une certaine manière. Ça fait partie de la prospérité. La prospérité, c'est pas l'argent. Il y a des gens, ils ont trop les yeux sur l'argent ou sur leur salaire. Ah oui, mais moi, je peux pas prospérer, j'ai juste un salaire. Mais change ta façon de penser et tu verras que tes finances vont changer, ta réalité va changer. Donc, la malhonnêteté, c'est clair que Dieu ne peut pas faire prospérer un chrétien malhonnête. Il y a une expression qui dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Et l'honnêteté, l'intégrité, ça se voit dans les petites choses. Il y a des choses qu'on fait parfois, même nous-mêmes, et on les fait. Si on y réfléchit un peu, on peut être surpris de ce qu'on est en train de faire. Et ça montre une chose, c'est qu'il y a il y a un petit craquement là, une petite fissure au niveau de notre intégrité. Il y a des fissures parfois, vous sortez d'un magasin, la caissière ou l'hôtesse de caisse n'a pas compté ce que vous avez dans votre caddie, et là vous continuez comme si rien n'était. Ça montre quoi? Ça montre une fissure dans l'intégrité. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent se passer, ou alors vous êtes au travail et là, il y a des choses qui tombent dans votre valise par hasard, des crayons, des stylos, des papiers dont vous aviez besoin, des post-it ou je ne sais quoi. Là encore, ça montre un problème, ça montre une fissure au niveau de votre intégrité. David a dit, j'étais un enfant et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il y a vraiment une protection pour l'homme intègre. On avait vu un verset qui disait que les gens qui ne marchaient pas avec Dieu n'avaient plus d'ombrage pour les couvrir. Et quand on marche dans l'intégrité et qu'on marche selon les lois spirituelles, il y a vraiment une ombre de protection sur notre vie. Et ça, c'est bon et c'est important. La mentalité de pauvreté, moi je vous ai expliqué un peu mon expérience, que j'en ai été esclave pendant toute mon adolescence. Et je vous ai donné l'exemple de quand j'allais le soleil et qu'il faisait très chaud dehors toute une après-midi et que j'avais vraiment très très soif, mais je ne buvais pas d'eau. Alors j'allais dans un magasin pour acheter un coke. Là, je regardais le prix de la bouteille, le prix de la canette, le prix du litre, etc. Et finalement, je ressortais sans rien. Pourquoi? Parce que j'avais cet esprit de pauvreté dans ma vie. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'en a délivré au travers de l'enseignement de sa parole. Et la mentalité de pauvreté, c'est vraiment quelque chose qui va nous poursuivre toute notre vie si on n'en est pas guéri. On a vraiment besoin de guérir de cette mentalité de pauvreté, si c'est votre cas par exemple, et de renouveler nos façons de penser. Et cette mentalité de pauvreté nous amène à déshonorer souvent Dieu, à déshonorer peut-être notre conjoint, à déshonorer nos enfants ou les gens à qui on devrait de l'honneur. Je vous ai donné l'exemple d'une église où j'étais par exemple, où il y avait une telle mentalité de pauvreté. L'argent était là, mais il y avait une mentalité de pauvreté. On prenait des portes pour en faire des tables, on ne finissait jamais les choses, les enfants ils avaient les jeux que personne ne voulait, dont personne ne voulait. Et ça montre un problème de mentalité de pauvreté. Et le pire, c'est quand ça se fait dans l'Église et pour le Seigneur. Ça, c'est vraiment horrible. Aujourd'hui, on va voir la radinerie. Je fais un résumé, c'est important. Il y a des gens aussi qui n'étaient pas là. Et la radinerie, bon, c'est un peu des choses qui vont ensemble, hein, la radinerie, l'esprit de pauvreté. La radinerie, c'est le fait d'être radin et c'est l'ennemi de la libéralité. Les gens radins, c'est des gens qui ne veulent pas donner, qui n'aiment pas donner. Ça leur fait mal parce qu'en donnant, ils ont l'impression de perdre quelque chose. Bien sûr, ça va totalement aller à l'encontre du donneur et de celui qui donne avec libéralité. Et une chose qui est sûre et certaine, c'est que le diable est un radin. Le diable n'aime pas donner, le diable aime voler. Le Seigneur aime donner, le Seigneur est un bon berger, il aime donner, il a donné sa vie pour nous. Il nous a tout donné par grâce, par amour. Donc, le fait de donner, ça vient du royaume de Dieu, mais le fait de garder et d'avoir cette mentalité de radin, ça vient du royaume des ténèbres. Et vous remarquerez que peut-être, en tout cas certainement, ça s'est passé en vous, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, tout d'un coup vous êtes devenu plus généreux. Et c'est un fruit de la nouvelle naissance. Si ça ne s'est pas manifesté, c'est peut-être que vous l'étiez déjà, ou alors que vous avez vraiment besoin de grandir par rapport à ça. Parce que normalement, quand on est de nouveau, on a envie de donner aux gens. On a envie de donner de l'amour, on a envie d'aider les gens. Il y a des gens qu'on ne regardait même pas dans la rue et qu'aujourd'hui on a envie de les aider, d'être une source de bénédiction pour eux. Mais de la même façon, on voit des gens dans le besoin et si on a de quoi donner, ben on est poussé à donner à ces gens-là. Ça, c'est un fruit de la nouvelle naissance et c'est un des fruits avec lesquels vous pouvez voir si quelqu'un est né de nouveau. Proverbe 11:24 nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir ». On avait parlé de ce verset, et celui qui épargne à l'excès, on pourrait croire que bah, il devient plus riche, puisqu'il a de plus en plus d'argent qui est mis sur un compte quelque part. Mais pourtant, la Bible dit qu'il ne fait que de s'appauvrir. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité. Encore, c'est une mentalité de pauvreté, c'est une mentalité de radinerie, où j'ai beaucoup d'argent, je suis comme cet homme dans les évangiles, qui dit « Ah, mon âme, tu as beaucoup de biens pour de longues années ». Il met tout ça dans un grenier, et finalement, le Seigneur lui dit « Ah non, homme insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même ». Donc ça, et Jésus dira, c'est le cas de ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Donc Dieu veut qu'on soit riche, mais Dieu veut qu'on soit riche pour lui et pour son royaume. La Bible dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Et il y a des gens, ils sont radins, c'est plus fort qu'eux, ils n'arrivent pas à donner. Il y a la corbeille qui passe par exemple dans l'église, et là, ils mettent leurs mains dans leur poche, mais la main ne sort jamais. Parce qu'il y a des chewing-gums au fond, je ne sais pas, mais la main ne sort pas. Ou alors parfois, ils arrivent à prendre un peu quelques petites pièces en passant bien délicatement à côté des billets pour les poser. La radinerie, ça ouvre une porte à la malhonnêteté. Les gens radins, vous remarquerez que souvent, c'est des gens malhonnêtes. Parce qu'en fait, ça crée dans cette mentalité de pauvreté, la peur de manquer et vouloir avoir les choses. Donc la radinerie fonctionne aussi avec la malhonnêteté. Des gens radins, c'est des gens qui vont voler facilement. Les gens donc, qui ont cet esprit, ils vivent comme des pauvres. Ils vivent dans la peur. Beaucoup de pauvres vivent dans la peur. Et les gens qui sont radins ou qui sont dans cet esprit de pauvreté, c'est des gens qui souvent ont peur. Ils ne veulent pas donner parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du lendemain, ils ont peur de manquer. Souvent, c'est dû à ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, au niveau familial. Pas toujours, mais parfois c'est le cas. Et on peut se poser la question, par exemple, est-ce que je suis radin? Comment je peux le savoir? Alors, une des questions, c'est est-ce qu'on doit recevoir une parole de Dieu pour faire une offrande? Est-ce que vous avez besoin de recevoir une parole de Dieu pour faire une offrande? Je ne vous parle pas de dîme, je vous parle d'offrande ici. Okay? Est-ce que vous avez besoin d'une parole de Dieu pour donner à quelqu'un dans l'église ou même dans la rue ou dans votre famille? Et ça, c'est des questions avec les réponses à ces questions aussi peuvent nous dire est-ce que j'ai un problème de radinerie ou pas? On peut demander au Seigneur, par exemple, le Seigneur nous dit, ah, j'aimerais que tu donnes 100 dollars à cette personne. Et là, on a besoin d'une parole de Dieu. On a besoin que Dieu nous parle. Alors que pour dépenser 100 dollars dans une activité, étonnamment, on n'a pas besoin de parole de Dieu. Pour dépenser 100 dollars pour des chaussures, mesdames, il n'y a peut-être pas besoin de parole de Dieu. Par contre, quand il y a une pensée comme ça qui vous traverse, la même que, oh, elles sont belles ces chaussures, achète-les toi. Tu en as tellement besoin, tu en as 50 paires chez toi. 51, ce serait bien. Bah, la même pensée comme ça qui vient, vous voyez quelqu'un et là, paf, vous avez une pensée, donne 100 dollars à cette personne. Et là, si vous êtes radin et si vous êtes égoïste, bah, automatiquement, vous allez ne pas écouter cette parole. Par contre, quand c'est pour vous-même, peut-être que là, vous allez l'écouter. Donc les gens radins n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu et ils ont besoin d'une parole de Dieu pour faire une offrande. Certaines personnes et se cachent derrière ces soi-disant paroles de Dieu. Ah oui, mais je n'ai pas, Dieu ne m'a pas parlé, alors bon, je vais pardonner. Mais ils n'ont pas besoin de parole de Dieu pour mettre de l'essence dans leur voiture, ils n'ont pas besoin de parole de Dieu pour aller au restaurant ou pour aller au cinéma, etc. Donc ça montre parfois les problèmes de radinerie. C'est important de ne pas retenir ce qui doit être donné dans le plan de Dieu. La Bible est très claire et nous parle dans Jérémie que Dieu a des projets, des plans pour nous. Dieu a écrit notre vie à l'avance. Dieu connaît tous nos jours. Et il connaît le déroulement de nos jours. Et la Bible dit qu'il y a des bonnes œuvres qui ont été écrites pour nous. Et normalement, on doit y marcher, littéralement. C'est ce que la Bible dit. On doit marcher dans ces bonnes œuvres. Donc, il y a des œuvres bonnes qui sont écrites à l'avance pour nous. Et si on retient, alors que c'était le moment de donner, eh bien, on est en train d'enlever une bénédiction non seulement à la personne, mais aussi à nous-mêmes. Et peut-être qu'on ne rentrera jamais dans la prochaine phase. Vous savez, il y a vraiment des phases dans la vie, que ce soit des phases financières au niveau naturel, mais aussi des phases financières au niveau spirituel. Et dans les domaines de notre vie, il y a des phases. Et parfois, pour arriver à une nouvelle phase dans notre vie, ça demande de faire quelque chose de différent. Comme dit le pasteur Joël, pas de changement, pas de changement. Et c'est vrai que pour arriver à une nouvelle phase dans nos vies, bah souvent Dieu va nous amener à faire quelque chose de différent et quelque chose de nouveau. Au niveau toujours des répulsifs, et ça va être le dernier qu'on va voir, donc les choses qui éloignent la prospérité, c'est la mauvaise confession. Donc la mauvaise confession, c'est quelque chose vraiment dont on doit guérir. L'argent ne tombe pas du ciel, mais il y a quelque chose qui éloigne l'argent, c'est ce qui sort de notre bouche. Au contraire, ça peut aussi l'attirer, mais ça peut vraiment l'éloigner. Rappelez-vous que nous sommes dans un système spirituel. Un système que c'est très naturel, mais le naturel et le spirituel fonctionnent ensemble. Il y a des gens qui prospèrent dans le monde d'une manière très bizarre, des gens qui deviennent très connus du jour au lendemain d'une manière très bizarre. Pourquoi? C'est pas forcément qu'ils avaient un don plus grand que les autres, mais il y a quelque chose derrière qu'on ne comprend pas forcément. Il y a des pactes qui sont faits, il y a certaines alliances qui sont faites, il y a certaines paroles qui sont dites. Mais de la même façon, lorsqu'on marche avec Dieu, et selon la parole de Dieu, il y a aussi des choses qui devraient se passer, positives. Il y a des gens, par exemple, qui ont la même vision que le monde sur l'argent. Ça, on en a parlé, hein, la vision de l'argent. On ne peut pas voir l'argent comme les gens de ce monde. On ne peut pas être possédé par l'argent ou aimer l'argent. Des gens qui ont le même regard, par exemple, sur l'économie de leur pays. La Bible nous dit dans Genèse 26, 12, rappelez-vous, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et vous vous souvenez que c'était dans un temps de famine, dans un temps désertique. Et pourtant, parce qu'il était à la bonne place, parce qu'il a vu avec la vision de Dieu l'économie de son pays, en fait, il a regardé non pas l'économie du pays, mais l'économie divine, l'économie du royaume de Dieu. Dieu n'a jamais de problème de pauvreté, il ne sait pas ce que c'est la pauvreté. Si on a une façon de voir l'économie de notre pays comme les gens de ce monde, et si on parle comme les gens de ce monde, ça crée des problèmes dans nos vies, parce qu'on est en train de parler d'un langage que Dieu ne comprend pas, que les anges qui sont censés exercer un ministère pour nous ne comprennent pas, et on est en train en fait de marcher dans le monde des ténèbres avec les systèmes de ce monde, entre autres la pauvreté et toutes sortes de choses négatives qui viennent du royaume des ténèbres. Donc il faut faire attention. Il y a des chrétiens qui sont parfois à une pause au travail, et là les gens commencent à parler combien l'économie ne va pas bien, comment ça va pas, etc., comment on va tous être licenciés, et le chrétien il est là, il continue à parler, ah, oui c'est vrai, ça va très mal, oui l'économie va pas bien, etc., oui j'ai peur pour moi, pour ma famille. Et finalement on peut pas parler comme les gens de ce monde, et on peut pas avoir la vision de l'économie de notre pays comme les gens de ce monde, parce que la Bible est très claire et on doit parler la parole de Dieu. Les gens intègres, ils demeureront dans le pays. C'est ce que nous dit la parole. On doit vraiment allier nos paroles avec ce que dit la parole de Dieu. Et ça, c'est peut-être et c'est certainement la chose la plus importante de toute cette série, c'est qu'on doit parler selon la parole de Dieu et qu'on doit croire la parole de Dieu. Si Dieu nous dit qu'on va prospérer, on va prospérer, c'est tout. S'il nous dit qu'on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à s'inquiéter, c'est tout. C'est difficile pour la chair et pour le vieil homme, mais on doit accepter ces réalités. C'est la parole de Dieu. Et on doit l'accepter telle qu'elle. C'est la parole de Dieu. Certaines personnes ont la même vision aussi que les gens sur la source de leurs revenus. Jésus disait, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Notre source n'est pas notre directeur si on est employé. Notre source, c'est Dieu. Voilà pourquoi si demain vous êtes licencié, vous n'avez pas besoin de pleurer et de vous inquiéter parce que votre source n'est pas votre employeur. Par contre, si votre source est votre employeur, vous avez effectivement besoin peut-être de vous inquiéter. Mais si votre source n'est pas dans votre employeur ou n'est pas dans le gouvernement, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'elle est vraiment en Dieu. Et ça, on ne peut pas faire semblant. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est comme la foi. On ne peut pas faire semblant d'avoir foi. Il y a des gens qui font semblant d'avoir foi, mais ça se voit parce qu'ils vont le dire d'une façon ou d'une autre. Ils vont confesser leurs craintes dans les problèmes. Non, ne vous faites pas appeler directeur parce que notre source est en Dieu. Donc on ne doit pas avoir la même vision que les gens de ce monde parce que sinon on va vivre les mêmes réalités. Il faut vraiment faire attention à ce qui sort de notre bouche. Il y a des gens qui tombent au chômage et ils disent « Ah oui, tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit que j'allais tomber sur le chômage. » Ben oui, tu l'avais dit simplement. Jésus a dit « Il en sera fait selon ta foi. » Donc il en sera fait selon notre foi. C'est une réalité qui est la même pour tout le monde. Dans Nombre 13, je pense qu'on avait lu ce passage la deuxième fois, mais je veux qu'on y retourne. Dans Nombre au chapitre 13, c'est un passage tellement puissant sur la confession, la déclaration de nos bouches. Dans Nombre 13 au verset 27, vous vous rappelez que dans Nombre 13 au verset 2, Dieu a envoyé des hommes pour explorer le pays de Canaan. Et Dieu a dit d'eux, chacun d'eux sera un prince. Donc Dieu, c'est ce qu'il disait à leur sujet, voilà, vous serez des princes. Là, ils vont partir et en revenant, au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, c'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici le fruit, les fruits. Là, on voit notre héritage, on voit un pays où coule le lait et le miel, on voit les fruits qui sont là, ça nous parle vraiment du cœur de Dieu et du royaume de Dieu. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. À partir du moment où ils vont dire le « mais », il y a tellement de gens qui disent le « mais » à la parole de Dieu, j'en ai rencontré bien des fois, ils vous disent, je vous leur dis, oui, la parole de Dieu dit ceci, dit cela, et là ils vont dire « oui, mais ». Quand ils commencent à dire ça, déjà vous êtes sûr d'une chose, ils ne sont pas dans la foi, il y a quelque chose à corriger. Ils vont continuer à parler. Et au verset 30, il y a quelqu'un qui va être différent, qui va être animé d'un esprit différent, la Bible, Dieu va le dire. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs ». Donc les mêmes réalités, les mêmes circonstances, mais un langage totalement différent. Vous pouvez vivre les mêmes réalités financières que quelqu'un qui se trouve dans votre église et pourtant avoir une confession totalement différente. Totalement différente parce que vous la mettez selon la parole de Dieu. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas ». Voyez ce que la différence ? Il y en a un qui dit « Montons et nous prendrons » et l'autre dit « Nous ne pouvons pas monter ». les mêmes circonstances, les mêmes réalités, le même Dieu, la même nature humaine. Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. L'autre, le premier, dit « Nous en serons vainqueurs », et le deuxième dit « Ils sont plus forts que nous ». Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. J'aime bien cette traduction et le verbe qui est employé. Ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à marmonner, à ruminer, à parler contre, à murmurer. Et c'est ce que parfois, vous savez, dans les couples, parfois il y a un conjoint qui est plus dans la foi que l'autre. Et l'autre, il est attaqué par les finances et là, il va commencer à murmurer et à parler négativement. Et l'autre, finalement, qui avait essayé de construire sa foi, tout à coup, il est en train de tomber avec l'autre. La Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? C'est mieux d'aider. Ne soyez jamais la personne qui décourage. Ne soyez jamais la personne qui est en train d'amener l'autre personne vers le bas. Soyez toujours celle qui amène l'autre personne vers le haut. C'est à ça qu'on est appelé. Donc, ils vont décrier le pays. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et là, on voit l'extrapolation. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes du haute taille. Nous avons vu l'allée géant. Donc, au départ, on avait lu au verset 28, ils vont dire, nous y avons même vu des enfants d'Anak, donc des géants. Et à la fin, ils vont dire que finalement, tout le peuple, c'est des géants. Donc ça, c'est quand on fixe nos yeux sur les problèmes, bien sûr, on commence à les voir plus grands. Et nos problèmes ne sont tellement rien comparés à la gloire de Dieu et comparés à la puissance de Dieu. Dieu a des trilliards et autant que vous voulez de trilliards de dollars sur ses comptes bancaires. Et ça fait partie de notre héritage. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Rappelez-vous, Dieu les avait envoyés en disant « Vous êtes quoi? Vous êtes des princes. » Et ils finissent avec quelle déclaration? « Nous sommes des sauterelles. » Et ils disent aussi « C'est ce que nous étions à leurs yeux. » Alors que certainement, ils ne les ont pas vus, puisqu'ils se sont cachés pour les voir. S'ils les avaient vus, alors ils n'avaient pas à avoir peur finalement. Donc, ils extrapolent complètement et ils sont en train de parler négativement à l'inverse de ce que Dieu leur avait dit. Imaginez, Dieu nous voit comme des princes, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous voit comme ses enfants, Dieu nous voit comme les ambassadeurs, Dieu nous voit comme les représentants de son royaume, Dieu nous voit plus que vainqueurs, Dieu nous voit prospères, et quand nous sommes en train de dire le contraire, ben nous sommes en train de faire comme ce peuple. Et ils vont continuer au chapitre 14, ils vont commencer à dire « Mais pourquoi on n'est pas mort en Égypte, etc. ?» Et qu'est-ce qui va se passer de tous ces gens-là qui ont dit ça? Ils vont mourir dans le désert. Et les deux personnes qui ont eu un langage différent, qui ont dit « Nous allons gagner », et ils sont entrés à Canaan. Et ça nous montre vraiment la puissance qui se trouve dans notre bouche. Il y a un homme qui a écrit, en tout cas, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais qui a écrit « Il y a un miracle dans ta bouche » et c'est une réalité. Il y a un miracle dans notre bouche, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit avec notre bouche. Les gens qui disent « Ah, tu sais, ils sont en janvier » et ils disent déjà « En juin, on ne pourra pas partir en vacances, je te le dis. » Ok, bah, vous n'allez pas partir en vacances. Des gens qui disent « On ne peut pas faire ça » ou alors… tellement de choses qu'ils disent comme ça. On peut dire certaines réalités, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et on sait quand on ne doit pas les dire. Il y a des discussions où on doit traiter certains sujets, effectivement. On traite le sujet et on se met dans la foi. Et après, on change notre langage. Parce que si c'est pour ramener toujours le sujet négatif dans notre maison, on crée une atmosphère d'incrédulité où c'est impossible à Dieu d'agir. Rappelez-vous, on doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il y a des gens qui disent, par exemple, ah, tu sais, vous êtes riche, vous n'avez pas de problème d'argent. Si je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est riche, ou si je suis en train de parler des riches négativement, qu'est-ce que je suis en train de dire? Moi, je suis pauvre. Quand je dis, vous êtes riche, je suis en train de dire quoi? Moi, je suis pauvre. Je ne le dis pas, mais c'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui regardent les riches d'une mauvaise façon. J'en ai connu dans le monde, ils voient les riches, oh, c'est des riches, oh, etc. Ils sont riches. Ils regardent les riches comme si c'était un péché d'être riche. Ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de se maudire eux-mêmes. Ils sont en train de parler à leur futur et de leur dire « Futur, je suis en train de te dire, comprends bien cette chose, je ne veux jamais devenir riche. » C'est ce qu'ils sont en train de dire par leurs paroles. Et c'est une réalité. Donc si on a envie, parfois on a envie, il y a des pressions qui viennent, on a envie de parler négativement. Dans ces pressions-là, on apprend la maîtrise de soi. Dans ces pressions-là, on apprend la patience. Dans ces pressions-là, on apprend la joie. Dans les pressions et dans le désert, on apprend beaucoup de choses. Il y a des leçons que les gens aussi n'apprennent jamais. Et on peut apprendre vraiment des temps du désert. Et après, quand on en sort, on réalise que c'était vraiment un temps précieux, c'était un temps béni. Parce que c'était un temps où on a exercé les fruits de notre esprit et on s'est rapproché du Seigneur comme jamais auparavant. Et c'était des temps bénéfiques, on les réalise après. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il faut savoir se taire pendant la crise et les pressions. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire exprès parce que de toute façon, ça va sortir. Et les gens, ils essaient, ils ont écouté un cours sur la foi ou un cours sur les finances, alors ils font attention à leurs paroles, c'est bien, mais il faut que ça vienne vraiment du cœur. Faut que ça descende en nous. Sinon, on va juste dire des paroles. Ah oui, par la foi, je crois que ma situation va changer. Et quand les gens disent ça, la plupart du temps, c'est qu'ils espèrent. Donc, attention à nos paroles. Il ne faut jamais dire, voilà, je ne pourrai jamais acheter ça, je ne pourrai jamais faire ceci, etc. On a fait attention à nos paroles avec Annabelle depuis des années. Et à cause de ça, la plupart de nos amis intimes pensent qu'on est plus riche qu'eux. Et ce n'est pas forcément la réalité. Et quand on était à Paris, on était dans une situation à un moment de pauvreté. En fait, en parlant avec une amie qui était assistante sociale, et on parlait de, pas forcément de nos finances, mais en parlant avec elle, on a réalisé que nous étions dans les personnes les plus pauvres de France. Et c'était dans cette maison qu'on nous offrait gratuitement. Donc, selon l'État, on était pauvres, mais ce n'était pas la réalité, parce que Dieu pourvoyait par d'autres façons. Donc, faut vraiment faire attention à la façon dont on voit l'argent, à la façon dont on parle. Mais dans cette situation-là, pendant qu'on vivait certaines réalités, et c'est vrai que parfois il y a eu des temps qui étaient plus difficiles, on continuait à parler la parole de Dieu. Et depuis toujours, les gens ont cru qu'on était plus riches qu'eux. Ce n'était pas forcément le cas, mais on avait une confession différente. Mais par contre, quand vous changez votre confession, effectivement, vous plantez des graines dans votre jardin et avec des arbres qui vont pousser. Et demain, ils vous donneront du fruit. Donc effectivement, vous allez prospérer. On change de confession, on change aussi de réalisation, on change notre futur pendant qu'on est en train de changer nos confessions. Je vous avais donné l'exemple de cette personne à un moment dans notre église, une église où j'ai été. On a voulu acheter un bâtiment et la personne qui était en charge des finances, alors ça c'est terrible de mettre quelqu'un dans une église en charge des finances, quelqu'un qui ne croit pas, et cette personne disait, mais non, on va jamais pouvoir acheter, on n'a pas l'argent. Et vous avez expliqué que finalement, dans le loyer, on aurait pu devenir propriétaire depuis déjà plusieurs années et avoir complètement le bâtiment de payer. Mais l'argent était perdu bêtement dans le loyer. Un loyer qui était à peu près de 10 000 dollars par mois. Donc vous calculez sur 10 ans, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 1 200 000 dollars. En tout cas, 1 200 000 euros. Oui, ben c'est en dollars, je ne sais plus. La conversion. Mais c'est une mentalité. C'est juste une mentalité. Parfois. Juste la mentalité, ça nous amène. En fait, nos pensées nous amènent à quoi? Nous amènent à des déclarations. Nos déclarations nous amènent à des actions. Nos actions nous amènent à vivre certaines choses. Si on change nos pensées, rappelez-vous que la parole de Dieu dit que toutes vos pensées soient pures, qu'elles soient dignes de louange, qu'elles doivent mériter l'approbation de qui? De Dieu. Donc nos pensées doivent refléter la gloire de Dieu et doivent refléter la parole de Dieu. Il faut qu'on accorde nos pensées et nos paroles avec la parole de Dieu. Ça, c'est un travail, c'est un exercice. C'est un exercice qu'on doit faire. La Bible nous encourage d'ailleurs à nous exercer. Elle dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, il est utile quand même, mais la piété est utile à tout. Et dans la piété, il y a cet exercice, l'exercice de la piété. Exerce-toi dans la piété, donc. Et dans la piété, c'est aussi notre parole. Nous sommes des êtres spirituels. Donc c'est un exercice et on peut, et c'est la bonne nouvelle, on peut s'améliorer. On peut changer. Il y a des gens, ils ont une confession, entre guillemets, pourrie. Mais ça peut changer. On a vu des gens changer qui avaient une confession vraiment négative, mais ils ont médité la parole, ils l'ont cru, c'est descendu dans leur cœur, ils ont changé leur façon de penser et du coup leur façon de parler et ils ont vu leurs circonstances être transformées. Donc on peut parler vraiment d'une façon biblique, d'une façon divine et nos situations vont changer. Alors troisième partie, c'est les amis de la prospérité. Les amis de la prospérité. S'il y a des ennemis de la prospérité, il y a aussi des amis. Les amis de la prospérité. Et dans Luc, au chapitre 4, au verset 18, Jésus va faire une déclaration puissante. Luc 4, 18. Un passage qu'on connaît bien. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alors on va prendre le passé aussi pour proclamer une année de grâce du Seigneur. En fait, c'était une dispensation, une alliance de grâce, la nouvelle alliance. Si on prend le verset à l'envers, qu'est-ce qu'il dit en dernier ? Pour renvoyer, ou alors pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc une année de grâce, c'est l'année de grâce dans laquelle nous sommes. Pour renvoyer libres les opprimés. Alors s'il dit renvoyer libres les opprimés sont quoi ? Sont délivrés. Ils ne sont plus opprimés, mais ils sont délivrés. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Qu'est-ce que Dieu fait quand il voit un aveugle ? Quand Jésus voyait un aveugle, qu'est-ce qu'il faisait ? Il le guérissait. Il lui demandait « qu'est-ce que tu veux ?» et il le guérissait. Au-dessus, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc là, il parle juste de proclamer, mais c'est sa volonté de quoi ? D'amener la délivrance. Au-dessus, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle ? Quelle est la bonne nouvelle que Jésus avait à annoncer aux pauvres ? Est-ce que c'était « vous allez rester pauvres toute votre vie » ? Est-ce que c'était « vous allez être sauvés, ne vous inquiétez pas, les souffrances vont bientôt être abrégées pour vous, vous allez mourir dans la pauvreté, mais au ciel, tout sera pur et parfait ». Non. Est-ce qu'il a dit ça aux aveugles ? Non. Est-ce qu'il a dit ça aux captifs ? Non. Est-ce qu'il a dit ça aux opprimés ? Non. Donc, est-ce qu'il a dit ça aux pauvres ? Non. La bonne nouvelle des pauvres, ce n'était pas le salut. Dans le salut, oui, il y a le shalom, donc la bénédiction de Dieu. Mais la bonne nouvelle aux pauvres, qu'est-ce que Jésus était en train de dire ici ? C'est qu'il allait leur apporter une bonne nouvelle qui allait faire changer leur pauvreté et les amener non plus à être pauvres, mais à être enrichis. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et par sa pauvreté, que vous soyez enrichis. Donc c'était la bonne nouvelle, et il dit, du royaume de Dieu, dans Luc au chapitre 6 et au verset 20, donc un petit peu plus loin. Jésus va s'adresser à une partie de ses disciples et il va leur dire plusieurs déclarations. Il va dire au verset 20, alors il leva ses yeux sur ses disciples et dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Là encore, qu'est-ce que Jésus dit ?« Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Il n'est pas en train de dire « Heureux vous les pauvres, parce que ben voilà, je vais vous sauver. » Bon, votre condition dans le naturel ne va pas changer, mais bon, au moins vous êtes sauvés. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? Elle nous dit, est-ce que vous allez dire à un pauvre, sois béni, réchauffe-toi, etc., et ne pas lui donner ? Vous rappelez ce passage ? Non, la Bible dit que ce ne serait pas de bien faire, ce ne serait pas faire d'une bonne façon. Donc, est-ce que Dieu ferait ça ? Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus, ce serait ça ? Est-ce que ce serait ma bonne nouvelle, c'est bon, ok, c'est le salut, mais restez toujours dans votre pauvreté, allez vous rassasier, réchauffez-vous, etc. Bien sûr que non, c'était une bonne nouvelle de leur faire sortir de leur situation. Il dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » C'est quoi le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu, c'est un royaume de provision. C'est un royaume de bénédiction. C'est un royaume qui ne connaît pas le manque. C'est le royaume de Dieu. On veut que le royaume de Dieu, ce qui se passe dans le ciel, ça descende où ? Sur la terre. Dans le ciel, est-ce qu'il y a pauvreté ? Est-ce qu'il y a chômage ? Non. Dans le ciel, est-ce qu'il y a manque ? Non. Dans le ciel, est-ce qu'il y a des prières de plainte ? Non. Dans le ciel, ça n'existe pas. Dans le ciel, tout est parfait. Et d'ailleurs, notre héritage descend d'où ? Il descend du ciel. Il se manifeste sur la terre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Jésus dit, donc pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et ici, dans ce verset 20, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Est-ce que Jésus dit « Heureux nous qui sommes pauvres ?» Non, on sait, Jésus dit « Heureux vous qui êtes pauvres. » Ça nous montre quoi ? Que Jésus ne s'associe pas aux pauvres. Sinon, Jésus aurait dit « Heureux nous les pauvres, car le royaume de Dieu est à nous. » Mais il a dit « Heureux vous ». Quand quelqu'un dit « Heureux vous », par exemple, si je dis « Heureux vous les Québécois », je ne m'associe pas aux Québécois, même si je crois que je le suis maintenant. Mais si je dis « Heureux vous les Québécois » ou qu'un médecin est en train de dire « S'il vous plaît, vous les patients », il ne s'associe pas aux patients. Il est le médecin, celui qui est censé aider les patients. Ou « Heureux, vous, les malades, je ne m'associe pas aux malades. » Donc Jésus aurait dit « Heureux, nous, qui sommes pauvres. » Mais il a dit « Heureux, vous, qui êtes pauvres. » Deuxième chose, est-ce que Jésus a dit « Heureux parce que vous êtes pauvres » ou « Vous êtes heureux parce que vous êtes pauvres, à cause de votre condition de pauvreté ?» Non. Il n'a pas dit que la pauvreté, c'était une condition de bénédiction et de joie. Donc il n'a pas dit « Vous êtes heureux parce que vous êtes pauvres. » Parce qu'il y a des gens qui ont lu comme ça, vraiment, et qui ont enseigné ça. « Ah non, la pauvreté, c'est vraiment une bénédiction. » Non, pas du tout. La pauvreté, ça vient du royaume des ténèbres. Puisque au ciel, il n'y aura pas de pauvreté. Il n'y aura jamais une personne qui manquera ni d'oxygène, ni d'argent, ni de joie, ni de quoi que ce soit, ni de nourriture, ni de paix, ni d'intimité avec Dieu. Il n'y aura pas de manque au ciel. Par contre, en enfer, effectivement, ce sera terrible. Il y aura une pauvreté terrible. Il y aura à peine un soupçon d'oxygène pour pouvoir respirer. Il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura que des cris, il y aura des pleurs, ce sera terrible. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Mais si on ne comprend pas bien cette vision de la pauvreté et de l'argent et de l'amour de notre Dieu et la réalité de la nature de notre Père Céleste, bah, automatiquement, ça va se refléter dans nos finances. Parce qu'on ne pourra pas bien prier pour nos finances, on ne pourra pas parler sur nos finances, on ne pourra pas s'attendre à Dieu par rapport aux finances parce qu'on va penser que ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est presque un péché si je prie pour mes finances. Donc, il faut vraiment changer nos façons de penser. Donc, Dieu veut vraiment nous bénir. Et c'est un peu l'image que les gens ont de Dieu. C'est justement cette image d'un Dieu qui ne s'occupe pas vraiment de nos besoins. Jésus a dit dans Luc 11, 11, « Quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Donc, Jésus donne un exemple très simple, compréhensible pour tous, pour montrer la bonté de Dieu et pour montrer l'amour de Dieu. Il dit, ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quand vous dites au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de 500 $ pour ce mois-ci, ou pour faire tel et tel projet, pensez-vous que Dieu va vous amener dans la détresse et dans la famine? Il y a des gens qui pensent ça. Ah, Dieu a voulu m'amener dans la détresse et dans le désert. Non, je ne suis pas sûr, non. Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ah non, mais Dieu m'a donné un scorpion parce qu'il voulait que je comprenne tous les gens qui se sont fait piquer par des scorpions. Je ne crois pas non plus. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus s'est fait pauvre, Jésus s'est fait malade pour nous, mais il n'était ni pauvre ni malade. Jésus a été fait péché, il a été fait malédiction. Mais Jésus n'était pas malédiction et Jésus n'a pas péché. Mais il s'est fait tout ça, toutes ces choses pour nous bénir dans son amour. Donc Dieu est bon et il faut savoir le redire. Alors la bonne confession, c'est un ami de la prospérité. La bonne confession, la Bible dit dans Proverbes au chapitre 18 et au verset 20. Proverbes 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Un puissant verset. C'est du fruit de sa bouche, c'est-à-dire qu'il y a un fruit qui va sortir de ta bouche et de ma bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. On a l'impression, comme je disais tout à l'heure, parfois que l'argent tombe du ciel, ou que l'argent vient des hommes, ou même que l'argent vient de Dieu, alors que ça vient de notre bouche. Dieu nous a donné quoi? L'autorité. Dieu a dit à l'homme quoi? Dominer. Est-ce qu'on a besoin de prier pour que on puisse dominer? Non. Dieu nous a dit dominer. Dieu nous a dit de régner. Dieu nous a dit d'être puissant. Seigneur, rends-moi puissant. Non, Dieu dit, sois puissant. Va avec la force que tu as. Seigneur, donne-moi la force. Non, je t'ai donné la force. Ouais. Seigneur, sois avec moi. Non, j'ai dit, je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, donne-moi l'amour. Non, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il y a tellement de prières comme ça que les gens font, et en fait, ils sont en train de combattre un combat qui a déjà été gagné par Christ. Et la plupart des prières que les gens font, malheureusement, ce sont des choses qui ont déjà été faites. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, mais je prie pour ton peuple pour qu'il puisse connaître son héritage, ce qui lui appartient en Christ. Ça nous appartient. Et tant qu'on ne changera pas nos façons de penser, on va se faire voler. Donc il y a un fruit qui sort de notre bouche. Soit ce sera un bon fruit délicieux, il sera tellement gros, comme quand ils sont allés à Canaan, le fruit était tellement gros qu'ils ont dû le porter à plusieurs. Ou soit il sera vraiment bon, petit, mais bon, ce sera un bon fruit quand même. Ou soit ce sera un fruit pourri, comme dans le jardin d'Éden. Ils ont pris le fruit, oh, il était bon à voir, etc. Il avait l'air bon. La craque, ils ont mangé dedans, il y avait un ver à l'intérieur. Et ça les a amenés dans la perdition. Et dans toutes sortes de problèmes. Donc, de notre bouche sortent des bonnes choses ou des mauvaises choses. On plante au travers de nos paroles des semences. La Bible nous dit que nos paroles, c'est des semences. Et un jour ou l'autre, ça va donner des arbres. On le sait, dans notre jardin, des bons ou des mauvais. Donc, nos circonstances, les choses qu'on vit, on va être surpris un jour de savoir les choses qui se sont passées dans nos vies, que, en fait, nous étions les responsables de ces choses. Et souvent, on dit « Oui, mais c'est parce que Je me suis marié avec la mauvaise personne. Oui, c'est parce que mon patron est ceci et cela. Oui, parce que j'ai vraiment que des problèmes partout où je vais. Oui, quand Toto a des problèmes avec tout le monde, le problème c'est qui? C'est Toto. Il y a des gens, ils changent de travail constamment, ils ont des problèmes constamment. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est les directeurs? Est-ce que c'est les patrons? Non, dis que c'est les patrons, effectivement, tu ne deviendras jamais patron toi-même. La même chose qu'avec les riches. Non, c'est pas les patrons, souvent c'est la personne. J'ai rencontré comme ça un jeune, partout où il allait, il se plaignait des patrons. Finalement, il a essayé de faire des trucs tout seul, mais même tout seul, ça ne marchait pas. Pourquoi? Le dénominateur commun, c'était lui. Donc, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Il y a des confessions qu'on peut faire. Un jour, j'ai réalisé que la vie de prière, ce n'était pas seulement demander. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, mais quand j'étais enfant, je priais comme un enfant. Et donc je priais tous les soirs dans mon lit, et je priais d'abord pour mon père, pour ma mère, pour ma soeur, pour mon frère, et parfois même pour mon chien, et pour mon école. Et je priais tous les soirs. Et en fait, pour moi, la prière, c'était ça. Pour moi, la prière, c'était demander. Et puis effectivement, quand on allait à l'église, à la réunion de prière, les gens faisaient quoi? Les adultes plus grands que moi, ils faisaient quoi? Demander. Ah Seigneur, je te demande ceci. Ah Seigneur, je te demande cela. Ah Seigneur, je te demande ceci. Ah, je te demande cela. Alors je me suis dit, bon, c'est ça la prière. Alors que non, la prière, c'est pas ça. La Bible nous parle de prier toutes sortes de prières. La louange, c'est la prière. Et en fait, normalement, notre vie de prière devrait être essentiellement composée de louanges. Rappelez-vous tout à l'heure, avec action de grâce. Oui, on a des moments où on a besoin de demander à Dieu. Jésus dit, demandez et il vous sera donné, vous recevrez. Mais dans tout ça, on ne peut pas juste arriver auprès de quelqu'un et constamment lui demander, parce que ça va créer une relation qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne. Si un mari va vers sa femme pour lui demander constamment et qu'il ne lui donne rien en retour, ça va créer une relation mauvaise, forcément. Donc il y a des gens qui s'approchent de Dieu pour demander, 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 et ils ne créent pas une atmosphère de louange et d'adoration. On doit créer une atmosphère de louange, et nos prières, notre demande, elle est fondée dans cette louange et dans cette adoration. La louange et l'adoration, c'est simplement c'est la fondation. C'est la fondation de notre vie de prière. Sinon, ça veut dire quoi? On est constamment égoïste, en train de demander, de demander, de demander. Et Jacques dira, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Pour satisfaire constamment à vos propres désirs personnels, mauvais. Là, il parlait de désirs de convoitise. Donc, il y a toutes sortes de prières, de types de prières. Et bien sûr aussi, il y a la prière en langue qui est tellement, tellement importante parce qu'elle va nous amener à prier dans l'esprit. À prier, la Bible dit qu'on va donner d'excellentes actions de grâce, mais on va aussi parler des mystères, des mystères sur nous-mêmes, sur nos vies. Donc on va parler, en fait, ça veut dire construire notre maison. En priant en langue, on construit, on s'édifie. C'est construire notre maison, on construit notre maison spirituelle. Donc en priant en langue, c'est une bonne façon aussi de prier d'une façon divine. Donc il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut proclamer dans la prière. Et comme je le disais, une des choses que j'ai réalisées au bout d'un moment, c'est que la prière, ce n'était pas seulement demander, bon, c'était louer, c'était adorer, c'était prier en langue, mais c'était aussi déclarer. Et dans notre vie de prière, il y a un aspect qu'on oublie souvent, c'est de déclarer. Pourtant, on voit David, entre autres, on voit l'apôtre Paul qui a fait des déclarations. Ce n'était pas comme ça, il ne les sortait pas comme ça n'importe comment, c'était des déclarations de foi. C'était des choses qu'il déclarait dans sa vie régulièrement. On peut le voir dans le texte, ça ressort très clairement qu'il parlait la parole de Dieu. Il déclarait la parole de Dieu. Il déclarait les promesses de Dieu. Il y a toutes sortes de versets. Il y a des versets, par exemple, un verset qui dit que nous sommes bénis de toute bénédiction. Donc là, on peut déclarer, je suis béni de toute bénédiction. Dans l'épreuve et tout ça, on déclare, je mangerai les meilleures productions du pays. Moi, je vous ai raconté, je faisais mes achats en France, dans les magasins. Et là, j'étais dirigé par les promotions et je voyais les gens acheter des bons trucs, je voyais des bons trucs que je ne pouvais pas m'acheter et je parlais la parole de Dieu, Seigneur, merci parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je vais manger les meilleures productions du pays. Et j'ai dû croire que c'était la volonté de Dieu parce que je ne la croyais pas. Je ne pensais pas que c'était la volonté de Dieu, que Dieu voulait que je mange les meilleures productions du pays. Et c'est peut-être votre façon de penser aujourd'hui. Peut-être que vous n'arrivez pas à croire. Ça dépasse votre mentalité que c'est la parfaite volonté de Dieu de manger les meilleures productions du pays. Imaginez comment on pense différemment que Dieu. Dieu est tellement bon. Pour qui il a mis toutes les choses sur la terre? C'est pas pour les princes ou pour les rois, c'est pour ses enfants. Parce qu'en réalité, nous sommes des princes et des rois. Nous sommes des sacrificateurs. On devrait manger les meilleures productions du pays. Ça fait partie de notre héritage. Parfois, vous faites peut-être les courses, l'épicerie, vous arrivez à la caisse, et là, vous voyez quelqu'un qui est devant vous ou derrière vous, il a un steak, un petit steak à 25 $. Et là, vous dites, waouh! Vous voyez des gens manger au restaurant, dans des superbes restaurants, et un restaurant à 4 étoiles, 5 étoiles, où ils mangent d'une manière raffinée, et vous, vous amenez votre épouse ou votre époux au McDonald's. Au bout d'un moment, à l'intérieur, il y a quelque chose qui devrait se lever en vous et vous dire, ce n'est pas normal, c'est anormal. Pourquoi? Parce que, comme disait un pasteur, en ce moment, on vit dans le plus grand hold-up de l'humanité, où le diable vole tout ce qu'il y a. Il vole et il le donne à ses enfants, qui sont en train de faire toutes sortes de choses horribles avec. Et c'est pour ça qu'on voit, on allume nos télévisions, on va au cinéma, on nous bourre les yeux de toutes sortes d'images qu'on n'aurait pas voulu voir et qu'on n'aurait pas voulu que nos enfants voient. Parce que ça a été financé par des gens qui marchaient avec le prince de ce monde. Et Jésus les a appelés très clairement les enfants de Satan. Donc on doit prier pour eux, bien sûr, pour les saluer et les aimer, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire ici. Mais il y a un esprit du monde. Et c'est l'esprit de ce monde, c'est le Dieu de ce siècle qui aveugle les gens et qui les fait pourvoir. Il les fait prospérer, pardon, d'une manière satanique, pour le mal. Nous, Dieu veut qu'on prospère pour le bien. Et manger les meilleures productions du pays, c'est pour nous. Ça nous est réservé. C'est pour nous. On doit arriver dans cette réalité de manger le meilleur, parce que c'est la parfaite volonté de Dieu. La Bible dit que tout est à vous. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déclarer. Tout est à moi, ça m'appartient. C'est mon héritage. La Bible dit, vous serez toujours en haut, jamais en bas. Vous serez jamais la queue, mais vous serez toujours la tête. C'est des choses qu'on peut déclarer. On peut déclarer, voilà, je vais devenir et je deviens, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Un jour, j'allais à l'église un dimanche matin, j'étais dans les escaliers, et là, paf, il y a un truc qui me traverse, qui me dit, déclare que tu es une source de bénédiction. J'ai dit, oh oui, c'est vrai, je devrais déclarer quand je vais à l'église, je suis une source de bénédiction. Ça m'ouvrirait certainement au don spirituel, ça m'ouvrirait à être une bénédiction pour les gens. Et oui, parce que quand on déclare, on ouvre un chemin devant nous. 2 Corinthiens 8, 9 dit, en effet, vous connaissez la grâce, donc la grâce, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Oui, pasteur Jérémy, c'est ici. Une pauvreté spirituelle et c'est un enrichissement spirituel. Même si c'était le cas, dans l'enrichissement spirituel, il n'y a pas l'enrichissement naturel aussi. C'est pas d'abord le spirituel qui vient avant le naturel. Oui. Donc si on est riche spirituellement, bah, on sera riche dans le naturel. Ça, c'est clair. Donc la pauvreté, c'est avant tout une mentalité. On ne devrait jamais confesser la pauvreté, ou je suis pauvre, ou je suis dans le manque. On devrait confesser, je suis riche, parce que c'est ce que la Bible dit. Je suis riche et je serai riche pour Dieu. Et si on peut relire un petit peu dans Deutéronome 28, puisqu'on parle de déclaration, c'est clair que là, on trouve de puissantes déclarations dans les bénédictions. Quand Dieu nous dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, au verset 1, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la parfaite volonté de Dieu pour ses enfants. Pourquoi Dieu ne voudrait pas faire prospérer un de ses enfants qui marche d'une façon intègre, qui marche d'une façon juste? Pourquoi Dieu ne voudrait pas qu'il prospère? Et pourquoi les méchants prospéreraient-ils? Non, il n'y a aucune raison que Dieu nous demande, que nous donne un scorpion ou nous laisse dans la faiblesse ou dans la pauvreté. Non, parce que Dieu est un bon père et il nous le montre. Il nous donne de bonnes choses. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront comme des flèches. Ça nous poursuit. Au bout d'un moment, quand on crée tellement cette atmosphère de foi, de déclaration, de bénédiction, ces choses vont nous poursuivre. On n'est pas en train de le poursuivre. C'est ça aussi l'un des dangers que les gens ont quand ils entendent ce genre d'enseignement sur les finances ou sur la foi. Ils se disent, oh, je vais devenir riche. Et là, ils commencent à faire quoi? À poursuivre l'argent. Ça, c'est un problème. On ne poursuit pas l'argent. On poursuit le Seigneur Jésus, on poursuit notre Dieu, on poursuit l'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, dans cette relation qu'on a avec Dieu, on construit nos finances, on parle selon la parole de Dieu, on établit des principes spirituels. Et ça nous atteint au bout d'un moment. Ça nous poursuit au bout d'un moment. Et plus on avance, et plus ces choses nous poursuivent, et plus on grandit dans ces choses. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. On peut le déclarer. Donc je suis béni dans la ville, je suis béni dans la campagne. Ça, c'est des choses qu'on peut déclarer. le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Et des gens qui maudissent leur entreprise, leur compagnie. Ah, ça marche pas, oh, on va encore faire une mauvaise année, mais ne dis pas ça. Tu es en train de maudire ton entreprise, ta compagnie. Et tu seras maudit dans toutes tes entreprises parce que tu es en train de les maudire. Donc bénis tes entreprises. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Seigneur, merci parce que mon réfrigérateur est toujours plein à craquer. Assez pour recevoir des gens. Seigneur, merci parce que mon compte bancaire, je n'ai même pas besoin d'aller le voir tous les jours pour savoir est-ce que je peux dépenser. Je ne sais même pas combien il y a dessus, tellement il y a. Donc ça, ce ne serait pas avoir un bon budget. On n'est pas tous les jours en train de regarder. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Seigneur, merci, parce que j'ai des projets différents. Des fois, je dois aller, des fois, je dois revenir, j'ai des choses à faire. Merci parce que je suis béni. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. Protection, parole de protection. Ah oui, mais Seigneur, le Seigneur n'était certainement pas au courant que j'allais avoir ce problème financier ou que ma voiture allait avoir un problème. Il était au courant, il n'y a pas de problème. Donc, continue à confesser comme il le faut. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, le Canada. Gloire à Dieu. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. On va parler, bien sûr, de l'obéissance. Après, on voit l'Éternel te comblera, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Tu donneras et tu n'emprunteras pas, etc. On voit toutes les bénédictions qui sont là, elles sont là pour nous. Des gens ont dit, oui, mais tu sais, c'était dans le cadre de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, du peuple d'Israël. Oui, mais la Bible dit quoi? Que nous avons une meilleure alliance, basée sur de meilleures promesses. Donc si dans l'Ancien Testament, ils avaient et ils pouvaient manger les meilleures productions du pays, c'est pas pour que dans une meilleure alliance, on mange les moins bonnes productions du pays. Non, tout est meilleur. Tout est meilleur. La grâce est meilleure, la paix est meilleure, la joie est meilleure, nos entreprises sont meilleures. Tout est meilleur. Parce que ça vient de Christ, ça vient de Dieu. Et c'est une meilleure alliance basée sur deux meilleures au pluriel. Promesses au pluriel. Ça fait partie des bénédictions. Et les bénédictions sont les mêmes. Ce sont des lois spirituelles que Dieu a instaurées, même avant la loi, qui était là dès le départ, de pouvoir prospérer, de pouvoir régner, de pouvoir gouverner, et ça demeure aussi longtemps qu'on marche avec le Seigneur. Et ça ne veut pas dire, bien sûr, une petite parenthèse, qu'on ne passera pas par parfois des épreuves, mais parce qu'on a tout construit comme il le faut, on sortira vainqueur de l'épreuve. Dans 2 Corinthiens 9, au verset 6, ça va, vous êtes encore là ? Super. 2 Corinthiens 9, 6. La Bible dit, en fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. C'est aussi une parole qu'on peut déclarer. Seigneur, j'ai semé dans ton royaume avec abondance, et je te remercie parce que je récolte avec abondance. La Bible nous dit que celui qui sème, il doit espérer pouvoir manger de ce qu'il a semé. Au verset 8, ce qu'on avait lu, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Là, c'est quelque chose à déclarer. Seigneur, merci parce que tu as le pouvoir de me combler, moi, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute œuvre bonne. On peut déclarer cette parole, on s'approprie la parole de Dieu. Au verset 10, la deuxième partie du verset, « Seigneur, merci parce que tu me donnes du pain pour ma nourriture, tu me fournis, tu multiplies la semence et tu augmentes les fruits de ma justice. » Verset 11, « Je serai de la sorte enrichi à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité. » Et là, vous continuez, vous parlez la parole de Dieu. Un autre passage dans Luc 12. Luc 12, au verset 22, c'est quand Jésus parle des inquiétudes. Il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. » Il y a des moments d'inquiétude, il y a des pressions, on déclare la parole. « Seigneur, tu as dit dans ta parole de ne pas s'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter pour ma vie de ce que je vais manger, ni pour mon corps de quoi je serai vêtu. » Et là, vous continuez à déclarer, vous pouvez aller jusque au verset 34. Et vous voyez par exemple au verset 32, il est écrit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ça fait partie du royaume, la prospérité divine. Le verset suivant dit « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. » Ça nous montre la mentalité de Dieu. Et il termine par dire « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Bien sûr, si mon cœur c'est l'amour de l'argent, alors j'ai besoin de me séparer comme de ce jeune homme riche parce que l'argent est un problème pour moi. Par contre, si l'argent n'est pas un problème pour moi, alors effectivement, je peux être une source de bénédiction. Je peux donner parce que le royaume m'est donné. Et dans ce royaume, ça coule constamment. Ça coule constamment. Jésus a dit que celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec lui, il sera rempli continuellement. Il dit « Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit, où il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de son esprit. » Il dit cela de ceux qui allaient naître de nouveau. Donc il y a un miracle dans notre bouche. Et on pourrait voir beaucoup, beaucoup de confessions. Mais bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui, ce soir en tout cas. On va terminer avec la semence. La semence, c'est bien sûr un ami de la prospérité. La semence financière. La semence financière est dans Marc au chapitre 14 et au verset 3, on voit l'exemple d'une femme qui avait vraiment le cœur du donneur. On va parler du cœur du donneur par rapport à la semence. On voit que le donneur, il a un cœur différent que les pharisiens. Dans cette histoire, on voit comme Jésus était à Béthanie, donc Marc 14, 3, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. » Ça, c'est équivalent à un an de salaire d'un ouvrier moyen à l'époque. « Et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Vous voyez, Jésus n'était pas choqué par le fait de dépenser de l'argent, une si grande somme si importante, parce qu'il ne vivait pas dans le manque. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une femme qui a eu à cœur de faire un généreux don à Jésus et à son ministère, et bien sûr, c'était prophétique pour sa sépulture. Et cette femme a pris de cet argent, parce que c'était une valeur monétaire pour l'époque, ce parfum, et simplement elle a brisé ce vase et l'a répandu sur Jésus. Et là on voit l'attitude du donneur. Le cœur du donneur, c'est bien sûr de donner, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu, c'est vraiment d'être une source et un sujet de bénédiction. Et on voit vraiment l'attitude différente, c'est Judas et les pharisiens. Judas et pharisien, ils sont choqués, ils s'indignent, ils sont en colère. Ils disent « Ah, mais on aurait pu garder cet argent. » Et on sait qu'au fond, ce n'était pas pour le donner aux pauvres, c'était pour eux-mêmes. La Bible le dit, entre autres avec Judas, qu'en fait, ils ne se mettaient pas en peine des pauvres, mais c'était parce qu'ils volaient dans la bourse. Donc ça, c'est les deux types de cœurs qu'on peut avoir. Soit on a un cœur de donneur, soit on a un mauvais cœur. On veut tout garder pour nous. Et cette femme avait vraiment ce cœur de donneur, en fait, et on s'aperçoit que les gens qui donnent au Seigneur, ce sont des adorateurs, souvent. Ce sont des gens... Il n'y a pas d'adorateur qui ne donne pas. Un adorateur de Dieu, quelqu'un qui loue vraiment Dieu, qui a une vie de louange et d'adoration, obligatoirement, ça devrait se refléter dans l'utilisation de ses finances. Obligatoirement, ça doit se refléter dans la façon dont il gère et il utilise ses finances. Et là, donc, quand elle casse ce vase, il y a ce parfum qui est là, ce parfum de bonne odeur qui est répandu, et ça fait plaisir au cœur de Jésus. On voit que Jésus, il approuve ce qui a été fait, et il bénit cette femme, et il va même défendre cette femme par rapport aux accusations qui étaient dressées contre elle. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il aime quand on donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. Et qu'est-ce que c'est? C'est que ça fait, et c'est vraiment l'image ici du cœur du donneur avec ce parfum qui est là, c'est que ça a rempli toute la maison de ce parfum. Et quand on est en train de donner au Seigneur, il y a un parfum. On se souvient dans l'Ancien Testament, il y avait l'autel des parfums, il y avait des parfums qui montaient, et c'était agréable pour Dieu. Et c'était une image pour nous aujourd'hui. La façon dont on peut donner pour le royaume de Dieu, comment c'est un parfum dans les narines, entre guillemets, du Seigneur. C'est un parfum de bonne odeur. Et l'apôtre Paul le dira d'ailleurs, comme c'est une offrande agréable à Dieu. On verra le verset tout à l'heure. Donc, c'est un parfum. C'est quelque chose qui est bon. Quand on donne au Seigneur, ça lui est agréable. C'est quelque chose qui le bénit vraiment. C'est une bénédiction pour lui. Et donc, ce donneur, le donneur, il donne avec joie. Le cœur du donneur, c'est de bénir. C'est vraiment. En fait, au bout d'un moment, cette personne qui a ce cœur du donneur, c'est que il vit pour les autres. Il vit pour bénir les gens. Il recherche à être une source de bénédiction. Il recherche à donner. Il recherche de plus en plus à prospérer parce qu'il veut donner. Et ça, c'est ce qu'on doit atteindre. C'est avoir ce cœur, je veux donner, de vouloir prospérer, mais non pas pour nous, mais pour donner aux gens. Bien sûr, on a un produit dérivé, c'est on est béni nous-mêmes. On a un retour, on est béni. Parce que la Bible nous montre dans 2 Corinthiens 9, hein, on a tellement, 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 on est tellement comblé qu'on peut donner pour toute bonne œuvre. Ça, c'est vraiment le cœur du donneur. C'est, il vit pour bénir les autres, il vit pour adorer le Seigneur. Et une des façons avec laquelle il adore Dieu, c'est au travers de ses offrandes, de ses offrandes. Donc cette femme, elle a dû penser, ah tiens, je vais donner cette offrande de grande valeur. Et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Elle n'avait jamais vu une femme aller pendant un repas même où Jésus était là, entouré de pharisiens, et en plus en étant femme à cette époque-là, entrer comme ça et se dresser au milieu d'une table où il y avait un invité de marque avec les pharisiens qui étaient là, imaginez le jugement. Elle aurait pu se faire juger, elle s'est fait juger. Elle aurait pu avoir peur du jugement des autres, elle aurait pu avoir peur de ceci, de cela. Mais en fait, elle était tellement poussée par l'amour et par l'inspiration qui l'a amenée à faire ça, qu'elle y est allée. Elle n'a pas regardé au jugement, elle n'a pas regardé à la perte financière, parce que pour elle, elle ne perdait pas. Les pharisiens, pour eux, ils avaient l'impression d'avoir perdu de l'argent, alors que ça ne leur appartenait pas. Elle n'avait pas l'impression d'avoir perdu quelque chose. Elle a vraiment eu l'impression, et c'était la réalité, d'avoir gagné quelque chose. Et il est clair et évident que dans le royaume de Dieu et au ciel, et lorsqu'elle sera ici sur la terre, recréée par Dieu, c'est clair qu'il y a un héritage pour elle, à cause de ce qu'elle a fait à ce moment-là. Elle a donné l'équivalent d'un an de salaire. Donc ça, c'est le cœur du donneur. Dans Ésaïe au chapitre, pardon, Ecclésiaste au chapitre 11. Ecclésiaste au chapitre 11. Et au verset 1. Il y a la loi qu'on a appelée la loi de la semence et de la récolte. Semer et récolter. La Bible dit dans Ecclésiaste 11:1, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, tu le retrouveras. Ça veut dire quoi? C'est sème et tu récolteras. Et c'est un peu cette loi spirituelle de la semence et de la récolte. C'est ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens au chapitre 9. 2 Corinthiens 9, au verset 6 à 11. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Donc on va semer, on va récolter selon notre semence. La Bible est très claire, tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. C'est la même chose dans le naturel. Si tu sèmes simplement sur une petite surface de terrain, bah tu récolteras selon la surface de ce terrain. Par contre, si tu sèmes sur un énorme champ, tu récolteras sur la surface de cet énorme champ. Et si tu sèmes une graine tous les X mètres, bah tu vas peut-être pas récolter beaucoup. Par contre, si tu sèmes en abondance partout, tu récolteras certainement beaucoup. Donc, c'est ce que dit ici l'apôtre Paul. Celui qui sème peu, il moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera. Il récoltera en abondance. Dans Luc 6, 38, Luc 6, 38, Jésus dit: Donnez et on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Bon, ici, Jésus parlait du fait de juger les autres, mais c'est exactement la façon avec laquelle on peut être béni en donnant. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Vous savez, quand on achète des céréales ou un paquet de chips, vous achetez le paquet de céréales, il est gros comme ça, et quand vous l'ouvrez à la maison, vous réalisez qu'en fait, il y a juste ça dedans. Ça, c'est la société de consommation. Ils vous font croire un truc. En fait, ils se moquent un peu de nous tous les jours. On continue à acheter quand même. Hein. Il vous manque le paquet de chips, vous prenez. En fait, il est tout. Quand vous l'ouvrez dedans, vous réalisez qu'il n'y avait quasiment rien. Ça, c'est pas serré, secoué, ça ne déborde pas. Par contre, le Seigneur, lui, effectivement, c'est une bonne mesure, c'est serré, c'est secoué, ça déborde. En fait, on n'est pas en train de se faire rouler. Si on donne, on recevra. C'est une réalité. Proverbe 11, 24. Proverbe 11, 24. Tel qui fait des largesses devient plus riche. Proverbe 11, 24. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quelle promesse ! Si on arrose, on sera arrosé. Si on répand la bénédiction, on sera dans l'abondance. Si on fait des largesses, on va s'enrichir. Si on épargne à l'excès, par contre, on va s'appauvrir par notre mentalité. Ça encore, c'est des promesses de la parole de Dieu. Vous avez donné une phrase que m'avait dite un pasteur, c'est un ami pasteur, Fofi Ndelo. Il m'avait dit que quand il ferme sa main, il ne peut plus recevoir. Par contre, quand il l'ouvre et quand il la garde tout le temps ouverte pour donner aux gens, c'est là aussi qu'il peut recevoir. Et effectivement, quand on a notre main fermée, comment Dieu peut nous donner ? Par contre, quand on a notre main ouverte pour donner aux gens, on a aussi notre main ouverte pour recevoir. Et ça, c'est vraiment une réalité par rapport aux finances. C'est que c'est sûr, il y a des saisons de semences. Il y a des saisons où Dieu peut vous parler et de donner peut-être plus que d'habitude ou de donner à certaines personnes où vous aviez peut-être jamais donné. Et ces saisons-là, on parlera des saisons la prochaine fois. Il y a des saisons dans nos vies, des saisons financières aussi. Il y a un temps pour donner. Mais le temps pour donner, il est toujours là. Par contre, il y a un temps pour donner plus. Et ça, il y a des saisons, bon, on pourra en reparler. Je voulais parler de la dîme, mais on en parlera la prochaine fois. Par contre, on peut aller dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, verset 15. On voit ici un principe spirituel. C'est en fait le fait d'honorer Dieu par nos finances. Donc l'apôtre Paul, il parle aux Philippiens. Il leur dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ici, on voit une église, en fait, qui avait un cœur généreux. Il y avait plusieurs églises dans la région. Il y avait des églises même que l'apôtre Paul avait créées. Il y avait des gens qui avaient été amenés au Seigneur à cause et grâce à lui. Et pourtant, il y avait une seule église qui, au départ, soutenait son ministère. Il continue, il dit, c'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. On en a parlé tout à l'heure. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et là, il va dire quelque chose qui peut paraître un peu étonnant suite à ce qu'il vient de dire. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire, je vous remercie parce que vous avez pensé à moi, vous avez pensé à l'œuvre de Dieu, vous m'avez envoyé de l'argent, et à cause de cela, voilà que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il parle ici, et il explique une loi spirituelle, c'est que lorsqu'on s'occupe du royaume de Dieu premièrement, eh bien, toutes choses nous sont données par-dessus. Et c'est une réalité, c'est une promesse, Donc cette parole, il y a des gens qui disent, ah oui, la parole de Dieu dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, mais c'est des gens qui ferment leurs mains. C'est des gens qui n'ont pas à cœur le royaume de Dieu. Donc cette promesse ne s'applique pas à eux. Il y a beaucoup de promesses de la parole de Dieu, et en fait la plupart des promesses de la parole de Dieu, elles sont, c'est potentiel, c'est selon ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Ce qui va se passer à l'Apocalypse, ça va se passer, ça Dieu l'a dit. Par contre, le fait que Jésus-Christ est mort à la croix et que le salut est offert à tous, ça va dépendre de ce qu'on va faire avec ce salut. Soit on va le mépriser, soit on va l'accepter, le recevoir. Et il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À nouveau, on revoit un peu l'idée de 2 Corinthiens 9, où Dieu l'inspire par le Saint-Esprit à utiliser des termes les uns par-dessus les autres pour voir vraiment qu'on puisse comprendre. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc, Dieu est riche, on sait. C'est selon sa richesse, c'est pas selon l'économie, c'est pas selon le travail que je fais, c'est selon sa richesse. Il ajoute avec gloire. Donc, dans nos finances, il devrait avoir au bout d'un moment une gloire qui est là. Avec richesse, avec gloire, et après c'est en Jésus-Christ. Donc d'une façon pure, d'une façon divine. Dieu pourvoit à nos besoins. Et là, c'est vraiment un principe spirituel. Si on honore Dieu dans nos finances, Dieu nous honorera. Dieu honorera celui qui l'honore. Ça, c'est une réalité. Mais c'est si aussi on met notre foi là-dedans. Et comme je le disais la dernière fois, et j'en ai un peu parlé aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens... quand c'est l'Église, il donne le moins bon. Et j'ai écrit un enseignement un jour sur ça, qui s'appelait « Donner le moins bon à Dieu ». Il y a des gens qui donnent le moins bon à Dieu. Quand c'est les choses de Dieu, ils donnent le moins bon. Quand c'est pour l'Église, ils donnent le moins bon. Et ils ont cette mentalité, j'avais parlé dans la première soirée, la mentalité de fonctionnaire. J'avais dit que tous les fonctionnaires ne sont pas comme ça, c'est ce qu'on dit en général. La mentalité de fonctionnaire... c'est en fait, je vais donner le minimum, je vais donner selon la loi. Et quand on parlera de la dîme la semaine prochaine, on va voir que la dîme, pour certaines personnes, c'est une loi. Et ils donnent selon la loi, ils ont une mentalité de loi, ils ont une mentalité, d'ailleurs ils disent, je vais payer ma dîme. Alors que la dîme n'est pas une taxe, la dîme c'est vraiment une façon d'honorer Dieu par nos finances. Mais il y a des gens comme ça donc, qui, vraiment, ils donnent le moins bon à Dieu. Ils donnent au centime près, au sou près. Ils donnent avec un cœur qui n'est pas un cœur généreux, et en fait ils donnent ce qu'eux-mêmes n'aimeraient pas recevoir. J'ai donné l'exemple par exemple de ces enfants, des gens qui donnaient les vieux jeux qu'eux-mêmes n'auraient jamais voulu recevoir pour leurs propres enfants. Et il y a des gens comme ça, quand c'est l'Église, quand c'est les choses de Dieu, ils donnent le moins bon. Il y a eu tellement d'églises comme ça par exemple où les gens ont dit, ah, nous on donne le salaire minimum à notre pasteur pour qu'il reste dans l'humilité. Ça s'est fait, mais tellement de fois. Et ça se fait encore aujourd'hui beaucoup. J'ai connu des églises comme ça. Ils donnent vraiment le strict minimum. Comme si, pour être spirituel, il fallait en arracher, comme on dit ici. Comme s'il fallait vraiment connaître comment c'est dur. Et j'ai vraiment besoin de m'accrocher à Dieu. Ah oui, mais ça va l'aider, il va prier. Non, quelqu'un qui n'est pas pourvu dans ses besoins, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui, au lieu de prendre du temps pour aider les gens, sera en train d'essayer de s'aider lui-même et de prier, Seigneur, aide-moi, et au bout d'un moment il ne va même pas comprendre. Et il y a tellement de ministères comme ça qui ont souffert parce que des gens n'ont pas voulu donner leur part. Et il y a un verset dans Galates au chapitre 6 et au verset 6, mais on en reviendra à ce verset là où la Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous le trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est un verset qui n'est jamais prêché dans les églises. En tout cas, jamais par les pasteurs de leurs propres églises. J'ai jamais entendu un message sur que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pourquoi ? Parce que les pasteurs ont peur, certainement, de prêcher. Moi, il n'y a pas de problème, je vous en parlerai. Mais c'est une réalité, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment méprisé leurs pasteurs, méprisé les hommes de Dieu d'une manière générale, et c'est retombé sur eux. Que ce soit même des gens qui ont méprisé par leurs paroles, ils ont déshonoré les ministères, ils ont déshonoré le oint de Dieu, il y avait une onction qui était vraiment divine sur cette personne-là, et peut-être son caractère ne l'était pas, mais il y avait une onction, et on ne parle pas contre l'onction. On ne maudit pas et on ne méprise pas l'onction. On ne maudit pas le Canaan, même s'il y a des géants dans ce Canaan. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y a des gens qui n'ont pas semé dans le royaume de Dieu, qui ont déshonoré les choses du Seigneur, et ils se sont retrouvés dans des problèmes et ils se sont posé la question, mais pourquoi je suis arrivé là? C'est parce que simplement, ils ont semé des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, il y a un principe, si on honore Dieu par nos finances, par notre argent, Dieu nous honorera, on récoltera. Et on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui, je vois que l'heure est déjà avancée. Mais la prochaine fois, on va voir comment on peut soutenir selon la parole de Dieu. Et on va voir huit personnes, huit types de personnes que la Bible nous demande de soutenir. Et dans ces personnes, il y a les pauvres, il y a les opprimés, il y a les affamés, il y a les captifs, il y a les orphelins, il y a les veuves, il y a les frères dans la foi, il y a les ministères, ceux qui nous enseignent, il y a les gens qui sont dans l'évangélisation et il y a l'Église. Ça, c'est des types de personnes à qui on peut donner. On parlera des vœux à Dieu, il y a des gens qui font des vœux à Dieu. On parlera aussi des motivations du receveur, parce que s'il y en a qui donnent, il y en a aussi qui reçoivent. Il y a des gens qui reçoivent et ils savent comment recevoir, au travers de la manipulation, et au travers de toutes sortes de choses, et ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Et on va parler de l'obéissance au plan général de Dieu, au plan spécifique de Dieu. Et on parlera aussi de connaître et de respecter les saisons. Il y a des saisons dans nos vies, et c'est important de ne pas les louper, et de connaître dans quelle saison on est. Jésus a dit à un certain type de personnes, je crois aux pharisiens, il leur a dit, vous savez reconnaître quand il va faire beau ou quand il va pas faire beau, et vous savez pas reconnaître les signes des temps. Et nous, c'est important qu'on puisse reconnaître un peu les temps dans lesquels nous vivons et les phases financières dans lesquelles nous sommes. Je vais prier pour terminer et ouvrez votre cœur pour recevoir avec foi ce qu'on va déclarer ce soir. Père, je te remercie pour ta parole qui est précieuse et qui est merveilleuse. Et oui, c'est en réalité une bonne nouvelle pour nous. Nous croyons que ta parole et nous croyons que ton cœur, c'est de nous bénir, c'est de nous faire du bien. Nous croyons effectivement que tu veux pourvoir à tous nos besoins avec richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Et nous te glorifions de cette volonté que tu nous montres dans ta parole. Il y a eu tellement de siècles où cette parole a été cachée. Les gens religieux, les pharisiens n'ont pas voulu la montrer. Ces gens qui étaient là à diriger toutes sortes de personnes dans la religion, Père, ont donné une image de toi qui était fausse. Et on veut te remercier pour cette parole parce qu'elle est vraie, elle est véritable. Elle est juste, elle est pure, elle est sainte. Merci parce que ta parole est bonne. Merci parce que si on fait un bon usage de ta parole, notre vie sera bénie. Notre vie sera dans la joie, dans la paix et dans la bénédiction. Je veux te glorifier, Père, pour ta parole. Je veux te remercier pour ton amour. Je veux te remercier pour tes grâces qui sans cesse se manifestent pour nous. Merci parce que tu dis dans ta parole que tes bénédictions, tes grâces, elles se renouvellent chaque matin pour nous. Et je prie, Père, que tu puisses vraiment donner l'intelligence à ton peuple, que tu puisses ouvrir nos yeux sur ce qui nous appartient en Christ. Concernant les choses naturelles, parce que nous sommes et nous vivons physiquement dans le naturel et avec des besoins naturels. Et tu les connais, Seigneur. Tu dis de ne pas nous inquiéter. Nous refusons de nous inquiéter. Nous déclarons que nous prospérons financièrement. Nous prospérons comme l'état de notre âme. Nous choisissons de changer nos façons de penser, nos mentalités, sur la façon dont on voit l'argent, la façon dont on voit la source de nos finances, la façon dont on te voit aussi, Père. Nous croyons que tu es un bon Père céleste, que tu veux le meilleur pour nous. Oui, que tu veux qu'on puisse manger les meilleures productions du pays, parce que tu as mis ces choses dans la terre pour nous et sur la terre pour nous. Merci, Père. Merci pour ton amour. Je prie, Père, vraiment pour une révélation de ton amour. Je ne prie pas pour que tu puisses nous donner plus d'amour. Nous l'avons déjà reçu. Pour que tu puisses peut-être plus nous aimer. Tu nous as déjà aimés. Mais je prie pour une révélation de ton amour, dans ta connaissance, une révélation de notre héritage et de ce qui nous appartient en Christ. Au-delà, Père, de ce que je peux dire, au-delà de ce que tu m'inspires, Père, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Merveilleux Saint-Esprit, parle-nous, enseigne-nous, s'il te plaît. Révèle-nous la parole de Christ. Montre-nous comment sortir de situations difficiles, peut-être. Je prie, Père, que tu puisses aider les personnes, Seigneur, qui manquent de sagesse dans leurs finances, à faire les bons choix dans les prochains jours. Parce que je crois qu'avec ta parole, Père, et même avec l'épreuve, tu dis que tu nous donnes le moyen d'en sortir. Il y a un moyen de sagesse, je le crois. Merci pour la sagesse que tu donnes à tes enfants. Merci pour la sagesse
que tu donnes aux parents, que tu donnes au mari, que tu donnes à l'épouse, que tu donnes, Père, à chacun, à tous ceux qui ont la responsabilité de gérer les finances, que ce soit dans leurs entreprises, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur vie personnelle. Père, je parle et je proclame ta sagesse et ton intelligence divine. Merci pour les décisions qui sont prises suite à ces pensées du Saint-Esprit qui viennent dans le cœur de ton peuple. Je crois, Père, que tu vas parler à ton peuple. Je crois que tu le parles déjà, mais je crois que tu vas inspirer ton peuple. Père, je prie pour cette inspiration divine, qu'elle coule sur nous, qu'elle coule dans nos vies. Que ceux qui ont des dettes puissent voir ces dettes s'éloigner petit à petit, être écoulées, être écartées, être remboursées et pouvoir prospérer de plus en plus. Merci parce que cette bénédiction coule de plus en plus dans nos vies et ça devient un fleuve. Ça devient vraiment quelque chose de grand, quelque chose de bon pour être une source de bénédiction. Je prie et je parle par rapport à ta parole, Père, cet esprit de sagesse et de révélation. Qu'il y ait des décisions qui soient prises, que peut-être la convoitise est ce qui a amené des gens dans la pauvreté ou dans des dettes à cause de la convoitise. Père, je prie qu'il y ait des repentances, de véritables repentances et des changements qui soient opérés. S'il y a des choses à vendre, s'il y a des choses à rembourser, s'il y a des choses à régler, je prie, merveilleux Saint-Esprit, que tu puisses convaincre les cœurs au travers de la conscience que tu as donnée à ton peuple. Merci pour des consciences éveillées par rapport à ta parole. Merci pour des décisions, merci pour des changements. Merci mon Dieu, tu es merveilleux, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te remercions pour ta présence glorieuse. Merci parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Merci parce que tu nous as annoncé une bonne nouvelle, une nouvelle merveilleuse qui peut nous faire sortir de nos situations difficiles. Tu es le Dieu de paix et nous savons que même si nous traversons parfois, ou peut-être un jour la vallée de la mort, c'est juste l'ombre de la vallée de la mort. C'est juste une ombre. Et je veux te remercier pour ça. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que nous prospérons en toi, que nos finances sont bénies, bénies de toi, et que tu nous combles de tes bienfaits, alors qu'on met en priorité ton royaume. Tu nous combles. Et je veux proclamer, Père, la réussite dans les entreprises, dans les compagnies de tes enfants, la réussite financière, la prospérité, la grâce de Dieu, les diverses grâces de Dieu dans les pensées. Je prie, Père, que tes enfants puissent avoir des idées divines qui les amènent à prospérer d'une façon extraordinaire parce que l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent n'appartiennent pas à Satan. Ça t'appartient, Père. Je prie, Père, que les églises dans cette région puissent prospérer financièrement de plus en plus, puissent investir dans l'évangélisation, puissent gagner des âmes, puissent donner de l'argent pour voir des âmes être sauvées, investir dans les bons terrains. Père, donne la sagesse aussi aux pasteurs, aux dirigeants, dans ton royaume. Je te remercie, Père. Alléluia.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.